Merci d'avoir fait le déplacement pour ce temps de formation, d'enseignement. Y a-t-il des personnes qui sont là ce matin, qui n'étaient pas présentes hier soir? Alors Brian, bien sûr, et puis Madame aussi, d'accord. Ben écoutez, ça va, j'ai pas besoin de faire un long résumé alors. Donc nous avons commencé hier soir par un temps d'introduction sur notre sujet du combat spirituel. Et je vous ai proposé une définition, je vous ai aussi expliqué que le combat, ce que nous entendons habituellement par combat spirituel dans nos milieux évangéliques, inclut ou comprend plusieurs aspects. Et puis ensuite, je vous ai parlé des deux pièges qui nous guettent. Premier piège, à savoir voir partout des esprits ou des démons, et surtout les voir derrière les émotions. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière les émotions, je vous ai donné des exemples, notamment au travers de la colère et autres, mais ce n'est pas parce qu'un cas se présente parfois et qu'il est atypique qu'on va en tirer une règle et qu'on va l'étendre à tout le monde. Et puis le deuxième écueil qui se rencontre malheureusement dans bien des communautés, c'est ne pas avoir conscience de la réalité de ce monde spirituel. Et on a vu que ça venait entre autres de la vision du monde que nous avions, chose qui n'est pas le cas, par exemple, dans la vision du monde afro-antillaise et puis dans la vision du monde asiatique, où le monde spirituel est intrinsèquement lié au monde physique et qu'il n'y avait pas cette séparation que nous avons en Occident. Et puis, d'autre part, c'était lié aussi à un manque d'enseignement et de connaissances et également de pratiques sur le sujet. Alors ce matin, je ferme un tout petit peu la parenthèse du combat spirituel tel que je l'ai initié hier soir, et je me suis dit, surtout suite aux questions qui m'ont été posées hier soir et aux sentiments que j'avais, que ce serait bien d'aborder un autre aspect, en tout cas ce matin, du combat spirituel et de me pencher un petit peu plus sur une des portes d'entrée des démons, à savoir la question de l'occultisme. Alors je ne vais pas parler en détail des différentes pratiques occultes, ça serait beaucoup trop long, et puis en plus je sors une vidéo, toute une formation vidéo bientôt qui sera complète sur ce sujet, mais j'aimerais ce matin me concentrer un petit peu davantage sur comment faire pour accompagner une personne au niveau spirituel. Alors quelqu'un qui a touché ou non à l'occultisme, ou quelqu'un qui manifeste tout simplement, ou qui semble manifester une présence démoniaque. C'est donc ce que je vous propose de voir. Mais avant de voir cela, je me suis dit que ça serait peut-être bien de voir ce que j'enseigne habituellement quand je parle de l'occultisme de manière plus générale, voir un petit peu avec vous quelles sont les conséquences de l'occultisme. Parce que en voyant quelles sont les conséquences de l'occultisme, ça nous permet de mieux cerner aussi, de mieux comprendre ensuite ce qui se trame en réalité derrière tout cela. Donc dans un premier temps, je vous propose un petit peu de voir cela, et puis ensuite nous allons voir ensemble de manière pratique comment accompagner une personne sous influence spirituelle, sous-entendu occulte, comment faire pour discerner entre problèmes spirituels et problèmes psychiques, et puis aussi nous aborderons les problèmes d'oppression spirituelle chez les chrétiens, puisqu'il y a plusieurs écoles qui existent. Donc je ne vais pas poser les bases concernant le verdict de l'Écriture sur l'occultisme. Vous le savez, vous avez 75 références dans la Bible qui condamnent de manière explicite tout ce qui est occultisme, y compris le charlatanisme est condamné. Et surtout, si Dieu est si sévère avec les pratiques que nous qualifions d'occultes, que ce soit les magnétiseurs, les guérisseurs ou autres, c'est surtout parce que c'est considéré comme de l'idolâtrie. En réalité, c'est de l'idolâtrie. Et parce que notre allégeance va être donnée à des esprits. Hein, des esprits qui vont prendre toute la place, et donc nous donnons notre allégeance à quelqu'un d'autre. Et s'il y a bien un principe spirituel que Dieu n'encaisse pas, et un péché avec lequel Dieu a du mal, vous me direz, il a du mal avec tous les péchés en général, mais c'est la question de l'idolâtrie. Et si vous regardez l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu condamne je ne sais combien de fois, et châtie son peuple, et d'une dureté extrême, quand son peuple, justement, accorde son allégeance à d'autres dieux. Par exemple, il continue d'adorer Dieu, d'aller au temple, et puis à côté de ça, il va aller adorer ou offrir des sacrifices sous les arbres, au cas où. Hein, au cas où Dieu n'entend pas, on trouve une solution de secours à côté. Et si vous regardez bien, c'est la tendance. Et ce n'est pas simplement nos frères ou nos amis africains qui vont avoir cette tendance-là ou dans d'autres spiritualités. Nous avons exactement cette tendance-là aujourd'hui. Hein ? Combien de personnes dans notre société, même parfois dans nos églises, ont donné leur allégeance à Mammon ? C'est Mammon qui dirige tout. Mammon étant une divinité. Mammon étant, si vous prenez le texte grec dans le Nouveau Testament, la racine du mot Mammon, c'est ce à quoi je m'accroche, ce qui prend de l'importance. Alors ça peut être l'argent en tant que tel, mais ça peut être un sport, ça peut être une activité, ça peut être quelque chose de dévorant qui me mange tout entier. Et finalement, c'est à cette activité ou à cette chose ou à cette divinité que j'ai accordé mon allégeance. Et mon allégeance n'est plus au Christ pleinement. Le Christ, c'est en plus. Voilà, il est là, mais c'est en plus. C'est plus lui qui a la première place. Donc, voilà, c'est aussi présent chez nous. Donc, le verdict de l'Écriture est particulièrement dur à l'égard des pratiques occultes parce que nous accordons notre allégeance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre au lieu de l'accorder à Dieu et de le garder et de chercher à le conserver toujours en première place dans notre vie. Alors, quelles sont les conséquences pratiques de l'occultisme ? J'aimerais en voir 7 avec vous avant de voir comment faire pour accompagner une personne. Et donc, nous sommes là dans le sujet du combat spirituel. Ce soir, nous aborderons un autre aspect du combat spirituel et nous parlerons justement des clés de la victoire. Alors, déjà, je souligne que les conséquences sont nombreuses et qu'elles sont aussi désastreuses. Pourquoi ? Parce que nous le disions hier soir, le diable et les démons sont des tueurs et que leur objectif est de déstabiliser, de détruire, de rendre malheureux l'être humain. Et puis surtout, un point qui me paraît important, elles ne sont pas toujours logiques et proportionnelles. Par exemple, un tel aura consulté un médium une fois dans sa vie et sera sous forte influence démoniaque, et puis un autre aura consulté une voyante à plusieurs reprises, et cette personne-là manifestera peu de conséquences, si ce n'est la grande conséquence d'avoir accordé son allégeance à quelqu'un d'autre, et ainsi d'avoir commis une faute et d'être en porte-à-faux par rapport à Dieu. Effectivement, c'est pas très, très fort, mais ça va. Ça vous suffit ? Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai donné une conférence sur le sujet pour un groupe de jeunes et il y avait là un homme qui est venu, qui a témoigné un petit peu de ce qu'il avait vécu. Et j'ai beaucoup apprécié son témoignage, un bon Alsacien, donc le gars assez calme, posé, qui nous raconte que lorsqu'il a fait son service militaire, il était athée à l'époque, un de ses amis l'a invité à participer à une séance de médiumité. Et lui, ça ne l'intéressait absolument pas. Finalement, sur ses insistances, il est allé à cette séance de médiumité 2 ou 3 fois dans la semaine. Première fois, il est allé, rien ne s'est passé. Deuxième fois et troisième fois, il est allé là-bas, il a tenu le verre qui était mis sur une table et cette table avait un revêtement rugueux justement pour que le verre ne glisse pas facilement. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui l'a profondément, déstabilisé. Et il s'est demandé qu'est-ce que c'est. Et suite à cette expérience un peu bizarre qu'il a vécue, dans les années qui ont suivi, cet homme-là se réveillait plusieurs fois par mois la nuit. Il était pris de crises de somnambulisme et surtout, il devenait violent. Il décrochait des portes, il décrochait des meubles, il cassait des objets. Il ne s'en prenait jamais à des personnes, mais il était pris de crises de violence. Et lorsqu'il se réveillait le matin, il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Et c'était quelqu'un qui était obligé qui lui racontait plutôt ce qu'il avait vécu. Quelques temps après cette expérience, 2 ou 3 ans après, je ne sais plus, il s'est marié et son épouse a découvert cela. Et ça a été un sujet de difficulté, de conflit dans leur couple, à tel point qu'ils ont failli divorcer. Cet homme-là a fait le tour de je ne sais combien de spécialistes en France. À Paris, à Lyon, les spécialistes du sommeil qui l'ont gardé, m'ont-ils dit, pendant une semaine, pendant 15 jours, qui l'ont observé, qui l'ont filmé pendant qu'il dormait et qui n'ont pu que constater qu'effectivement, il se réveillait, il était pris de crises de violence. Ils lui ont proposé 36 000 traitements, mais aucun traitement n'était efficace. Et ils étaient totalement déboussolés par rapport à ce cas-là. 7 ans après cette expérience, cet homme entend parler de l'Évangile et il s'est converti au Christ. Le jour où il s'est converti à Jésus, il n'avait absolument pas conscience de ce que ça produirait dans sa vie, à partir de ce moment-là, C'était terminé, il ne s'est plus réveillé une seule fois la nuit et ses crises qu'il connaissait étaient totalement terminées. Que s'est-il passé ? Au travers de cette séance de médiumité, alors que lui n'y croyait absolument pas, ni en Dieu ni dans le diable, il y a une porte qui a été ouverte et ça a donné un lien d'accès dans sa vie. Donc dans le monde spirituel, c'est absolument pas logique. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Quand vous accompagnez quelqu'un, dites-vous bien cela. Parfois, vous pouvez avoir des gens qui ont pratiqué une ou deux fois, qui ne semblent pas avoir fait grand-chose, ou tout simplement, il y a des liens dans la famille et la personne va être fortement perturbée. Alors qu'un autre a beaucoup consulté et n'aura pas absolument pas les mêmes liens. C'est absolument pas logique et proportionnel à ce qui a été fait ou non. Donc ça, c'est en introduction. Première conséquence, que se passe-t-il quand nous consultons ou quand quelqu'un accorde son allégeance à quelqu'un dans ce monde spirituel, un médium ou un guérisseur ou autre, au travers du médium ou de ce canal, hein, c'est signification de médium entre autres, vous ouvrez, cette personne ouvre une porte sur ce monde spirituel occulte. Donc une porte qui va être ouverte. Donc c'est-à-dire qu'au travers du médium ou du guérisseur ou autre, on donne un droit d'accès. Et ça c'est un principe spirituel qu'il faut bien comprendre. De la même manière que lorsque vous allez chez le médecin ou que vous vous faites opérer, vous allez donner au chirurgien un droit d'accès. Il a le droit de vous couper à telle partie et vous allez même signer un papier et il va faire, j'allais dire la réparation, l'opération plutôt, et il va faire de son mieux avec toute l'équipe pour vous remettre d'aplomb. Vous lui donnez un droit d'accès sur votre corps. Et quand quelqu'un va chez un médium ou quelqu'un qui trafique au niveau spirituel, le principe est exactement le même. Le droit d'accès est donné non pas sur le corps physique en premier, mais le droit d'accès va être donné sur l'âme de la personne. L'âme avec ses émotions, l'âme avec sa volonté, avec son intelligence, et plus que cela, l'accès est donné cette fois-ci aussi à l'esprit de la personne. Donc le médium intervient comme canal. Vous, vous allez là-bas, vous êtes d'accord, vous donnez un droit d'accès. Et ce qui fait que cet homme, dont je vous racontais tout à l'heure l'histoire, a donné un droit d'accès. Il a donné son allégeance pour un temps, et par conséquent, les esprits, les démons, c'est le même terme dans le Nouveau Testament, ont eu le droit de venir, de passer, et de pouvoir influer dans sa vie. C'est ce qui se passe. Et souvent, les gens n'ont absolument pas conscience de cela. Alors, ça peut venir au travers de différentes pratiques occultes, ça peut venir aussi au travers de certains péchés, de substances, des abus, des personnes qui parfois ont été violées. On voit ensuite en entretien pastoral qu'il y a des liens spirituels sur leur vie. Ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, ce n'est pas logique dans ce monde, mais on peut le constater. Ensuite, des personnes aussi qui se retrouvent avec des liens. Ça, je l'ai constaté des dizaines, voire des centaines de fois. Des gens qui n'ont absolument rien demandé. Comme par exemple, cette jeune fille dont la maman m'avait téléphoné, enfin c'est un ami chrétien dans l'église protestante qui avait parlé de moi à cette dame et sa fille, et qui avait proposé que j'aille les visiter. Ils habitent à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et donc j'étais allé les voir parce que la jeune fille de 12 ans, enfin de 14 ans, et à l'âge de 12 ans, deux ans auparavant, alors qu'elle était dans sa chambre, tout d'un coup, elle a senti la présence une sorte d'esprit qui a voulu prendre contact avec elle. Et ça l'a effrayée, ça lui a fait peur. Et elle n'avait pas envie de nouer un contact avec cet esprit, de parler avec. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et à plusieurs reprises, au collège, et une fois lorsqu'ils sont allés à la ligne Maginot, elle a commencé à voir comme le monde des morts. Enfin, elle a vu des choses terribles. Elle est même tombée à terre. Elle était terrorisée. À tel point que le prof de sport lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et elle arrivait juste à s'en ouvrir à sa mère. Elle ne pouvait pas en parler, sa mère ne voulait pas en parler au médecin, ni au psychiatre, etc. Ils se sont dit, ils vont penser que ma fille est folle, ils vont lui filer des médocs, alors qu'elle, elle dit, mais il y a autre chose. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et ça a quand même duré deux années. Et donc, quand je suis allé là-bas, j'ai discuté un petit peu, j'ai pris contact, elle m'a raconté son histoire, et puis j'ai commencé à creuser. Et puis finalement, très rapidement, on a vu que dans la famille, du côté des grands-parents, je ne sais plus si c'était paternel ou maternel, il y avait effectivement des liens qui étaient là. quand la gamine allait dans la, chez ses grands-parents, ça se manifestait, c'était amplifié par 10. Et quand les grands-parents ont voulu, à un moment donné, construire un garage à côté de leur maison, ils ont découvert, en dessous de leur maison, un charnier. Donc non seulement l'endroit a été blindé d'un point de vue spirituel, mais la famille avait aussi des liens, il y avait, je ne sais plus quelle forme d'occultisme qui avait été pratiquée. Et donc, sans rien demander, cette jeune fille s'est retrouvée avec des liens. Et souvent, ces esprits ou ces liens vont se manifester pendant la période de l'adolescence. C'est souvent à l'adolescence que ça se manifeste. Chez certains, ça se manifeste aussi pendant la période avant 10 ans, mais très souvent, j'ai remarqué, c'est à l'adolescence. Et si ce n'est pas à l'adolescence, les gens ils vont vivre avec quelque chose en eux, des liens qui sont là, et qui, à un moment donné, dans leur vie, vont se révéler lorsqu'ils vont rencontrer un médium ou quelqu'un d'autre, qui vont leur dire, eh ben, toi, je vois que tu as un don pour faire ci ou pour faire ça. Et cette personne ne l'a pas cherché. Et quand vous creusez, cette personne, il y en a qui ne le veulent pas, mais qui sont quand même victimes, et il y en a qui vont le développer, mais il y a toujours à 99,99% des antécédents au niveau spirituel. Donc c'est génétique quelque part, enfin c'est génétique. De la même manière qu'on transmet un patrimoine génétique à nos enfants, et qu'on voit ceux qui font partie de la même famille, il y a aussi un patrimoine spirituel qui est transmis. Et ça, c'est une réalité. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de gens dans notre société qui, lorsqu'ils se convertissent, se retrouvent avec des liens plus ou moins forts parce que, justement, il y a eu des choses dans leur famille. Et eux n'ont absolument pas conscience de cela. La plupart du temps, les gens n'y croient absolument pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi ? Et puis finalement, ben oui, c'est des liens qui sont là. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, pas par eux. Donc, il ne faut pas qu'ils se repentent pour ça, mais par d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui ont ouvert la porte. Et pour revenir à cette jeune fille, moi je lui ai demandé, est-ce que toi tu veux, est-ce que vous voulez de ce patrimoine dans votre famille ? Est-ce que vous voulez ça ? Parce que moi je le demande aux gens, s'ils veulent, ils... Bien sûr, je leur ai expliqué que le Christ, Dieu, il n'est pas d'accord avec ça, et que le Christ peut les libérer, mais s'il dit, elle m'a dit, moi je ne veux pas de ça dans ma vie. Et la mère m'a dit, moi je ne veux pas de ça. Alors j'ai dit, bien tout simplement, on va fermer la porte au nom de Jésus-Christ. Et la porte a été fermée, c'est terminé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Et maintenant, la famille, là, la maman et sa fille sont en train de cheminer spirituellement. Et on espère que, dernièrement, j'ai eu de leurs nouvelles, qu'ils vont bientôt rencontrer le Christ. Donc voilà, ils ont dit, moi, je ne veux pas de ce cadeau, parce que c'est un cadeau empoisonné. Une porte ouverte sur le monde spirituel. Autre conséquence qui peut se manifester, la première conséquence pour moi c'est vraiment la plus importante, c'est vraiment cette question de porte. Et ce n'est pas parce que les gens vont vous dire par exemple c'était il y a 20 ans ou il y a 35 ans, par conséquent il y a prescription, au niveau spirituel il n'y a pas prescription. Et ce n'est pas parce que les gens n'y croient plus ou ils croient un petit peu qu'il n'y a rien qui peut se passer. Je vous ai donné l'exemple de cet homme que j'ai rencontré, il ne croyait ni en Dieu ni dans le diable et pourtant il s'est retrouvé complètement perturbé. Deuxième conséquence, une dépendance à l'égard du guérisseur magnétiseur, du voyant au médium. Quand je parle de dépendance, ici je parle vraiment de dépendance psycho-affective. Vous avez même des curés qui sont éclairés sur le sujet et qui font de la délivrance aussi, qui parlent, notamment un curé qui parle de véritables ravages accomplis par les magnétiseurs. Alors c'est étonnant que du côté catholique, il y en a qui parlent de cela. J'ai pas le temps de rentrer en détail, mais il y a plusieurs écoles qui existent. Mais du côté catholique, vous avez une grande école qui interdit tout cela. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique interdit toutes ces pratiques-là. Et parfois, quand moi j'ai des catholiques dans l'assistance qui seraient plutôt pour, je leur rappelle de lire leur catéchisme et de lire leur Bible aussi, parce qu'ils sont porte-à-faux par rapport à ce que leur Église dit. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi quelques curés et quelques évêques et quelques personnes qui sont dans la mouvance catholique qui sont vraiment bien éclairées sur le sujet. Vous avez entre autres un homme qui s'appelle Dominique Osney, qui est le frère de Philippe Osney, que vous connaissez certainement. Philippe Osney, qui est un pasteur protestant, qui fait de l'accompagnement spirituel pour les personnes qui sont prises par les questions d'homosexualité, de pornographie, bref, de tout ce qui concerne les dysfonctionnements au niveau de la sexualité. Eh bien, son frère est curé au Mans, et ça fait 30 ans qu'il fait des conférences, qu'il donne des conférences dans des lycées, des collèges catholiques, pour dénoncer les pratiques occultes. Il a un site très intéressant et moi je suis d'accord avec lui à plus de 95%, quoi, hein. Impressionnant. Il est parfois même plus pointu sur certaines pratiques que certains évangéliques, notamment concernant les médecines alternatives ou les médecines douces, quoi. Mais il faut savoir que c'est absolument pas la majorité. Donc une dépendance qui va s'installer à l'égard du voyant, du médium ou du guérisseur. Vous avez aussi des troubles de la personnalité. Alors attention, là ce sont les intitulés que je vous donne et par conséquent ne faites pas l'amalgame et ne voyez pas derrière tout trouble de la personnalité un problème spirituel ou occulte. Mais ce sont des choses qui peuvent se manifester. Vous avez des personnes qui, en l'espace de quelques mois, vont développer des problèmes psychologiques, parfois graves, ou alors qui vont sombrer dans la folie. Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises. Un jour, j'ai une dame qui me téléphone, c'était il y a 3 ans ou 4 ans de cela, de Bretagne, qui était pendant 20 ans dans l'occultisme. Je ne sais pas comment elle a eu mes coordonnées, mais elle me téléphone et elle était en train de s'approcher du Seigneur et elle était en train de découvrir la Bible, etc. Donc elle était encore très perturbée dans son esprit, dans sa compréhension. Pour elle, il y avait encore des esprits qui étaient bons et d'autres qui étaient mauvais. Elle était encore dans cette dynamique, dans cette dialectique, mais elle était en train de cheminer. Mais quelque temps après, elle s'est convertie, puis elle a été accompagnée par une église sur place jusqu'à ce que elle aille mieux, ça a quand même pris 2 ans. Elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée, quelques temps plus tard, si j'avais continué dans ce monde-là, je serais tombée, je serais devenue folle. C'est elle-même qui me l'a dit, quoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des gens qui, ça les atteint, ça les touche tellement au niveau de leur de leur personnalité, ça les déstabilise tellement qu'ils vont sombrer dans la folie ou qu'ils vont développer des pathologies au niveau psychologique et ils vont avoir du mal à être récupérés. Et ce qui est dramatique, c'est que certains, ça peut venir très vite. Encore une fois, il n'y a rien de très logique là-dedans. Autre conséquence, alors ça c'est bien sûr une conséquence assez classique que vous ne rencontrez pas toujours, des personnes qui vont manifester une répulsion particulièrement à l'égard du Christ, hein, pas forcément de Dieu, mais du Christ et de la Bible. Je pense à un de mes amis de l'église de Pentecôte de Strasbourg qui a sa voisine à qui il avait offert une Bible et un jour sa voisine de 70 ans lui dit « Écoute, la Bible que tu m'as donnée, j'arrive pas à l'ouvrir. Chaque fois que j'ai envie de l'ouvrir pour la lire, il y a comme une répulsion, quelque chose qui monte en moi et j'arrive pas à l'ouvrir, j'arrive pas à la lire, c'est plus fort que moi. » Et elle était toute surprise de cette réaction. Et l'autre, il a tout de suite compris qu'il y avait un souci. Et en creusant un petit peu, il a découvert que cette femme avait un don de médiumité et qu'elle parlait, soi-disant, avec son mari et d'autres qui étaient décédés. Et donc il lui a filé mon petit bouquin rouge sur le sujet, et cette femme a été d'accord avec le verdict de l'Écriture, elle a été d'accord pour que son voisin prie pour elle, et elle-même a demandé pardon à Dieu, et à partir de ce moment-là, elle a pu commencer à lire la Bible. Vous avez des personnes, la dernière fois j'étais dans le nord de la France, et puis il y avait une femme qui était là, qui a un don de voyance, et sa fille de 19 ans, elle aussi, a un fort don de voyance, et la maman n'était pas trop intéressée par le verdict de l'Écriture, et n'avait pas envie de se débarrasser de ses pouvoirs, mais la jeune fille voulait vraiment se débarrasser de cet héritage, elle ne le voulait pas. Mais c'était la première fois qu'elle entendait ce que Dieu dit sur le sujet. Et c'était pour elle un grand chamboulement. Et à la fin, j'ai eu un entretien avec elle. Et alors que j'étais en train de parler avec elle, en train de parler de Jésus, elle me dit, écoutez, reculez-vous parce que j'ai envie de vous frapper. Et vraiment, elle a commencé à changer de regard et elle a commencé à être vraiment pas sympathique. Mais parce que j'étais en train de lui parler de Jésus et j'étais en train de lui expliquer ce que la Bible dit sur le sujet. Et donc c'était l'esprit qui était en elle, hein, qui faisait qu'il y avait cette réaction. L'année dernière, j'étais dans le sud de la France aussi, à Nice, et là, il y a une voyante qui est venue, une dame qui a un don de voyance et assez fort, et elle s'est convertie. Et puis ensuite, c'est le pasteur qui l'a accompagnée dans la prière de conversion et dans l'entretien personnel. Et alors qu'elle était en train que lui, il était en train de prier pour elle, quand elle a demandé au Seigneur de venir dans sa vie, quand le pasteur était en train de parler de Jésus, elle entendait des insanités, des gros mots et des blasphèmes et des jurons à l'égard de Jésus. C'était des voix qu'elle entendait dans sa tête. Et donc elle l'a dit au pasteur et le pasteur a prié simplement pour la délier, la libérer des liens qui étaient sur sa vie. Et maintenant elle fait partie de cette église évangélique et c'est terminé quoi. Les dons de voyance c'est fini et puis aussi ce qu'elle voyait dans le monde spirituel et puis surtout les voix qu'elle entendait. Donc une répulsion, ça peut se manifester également pendant des temps de prière, pendant la louange, ou en lisant la parole de Dieu, ou en entendant la parole de Dieu, hein, il y a toutes sortes de, dans des cas de figure très différents. Ensuite, vous avez des personnes qui vont avoir des cauchemars, des crises d'angoisse, certaines dépressions ou des oppressions également, et qui peuvent, ou qui pourraient, ou qui devraient nous alerter. Peut-être y a-t-il quelque chose de spirituel. Je dis bien peut-être. Bien entendu, comme beaucoup de pathologies, ça a 36 000, les causes peuvent être multiples, mais ça peut se manifester. C'était il y a 2 ans, on avait la convention de notre association dans le sud de la France, et puis voilà que l'après-midi, on était parti pour s'amuser avec toute une équipe, et tout d'un coup, je reçois un coup de fil, et c'est un monsieur qui me téléphone de Haute-Savoie. Et qui me dit, écoutez, je suis catholique, pas très pratiquant. Il y a quelques mois de ça, je suis allé voir un guérisseur avec mon fils parce que ça n'allait pas. Et à 2 reprises, il m'a magnétisé, ou plutôt un magnétiseur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des cauchemars terribles. Et j'ai commencé à avoir des bourdonnements, des sifflements dans les oreilles. Il m'a dit, ces cauchemars étaient tellement forts que cet homme-là, alors qu'il est peu croyant, est allé voir l'exorciste de son diocèse. Vous imaginez un peu, quoi, pour qu'il aille voir l'exorciste. Il raconte ça à l'exorciste du diocèse. Celui-ci l'a regardé bizarrement, n'a pas pris très au sérieux sa demande et lui a dit, vous allez me répéter quelques Notre Père et puis je vous salue qui vous savez, hein. Et puis ça devrait aller mieux quoi. Et il m'a dit, j'ai fait ce qu'il m'a dit, mais ça n'a rien changé. Donc répéter le Notre Père, c'est bien quoi. Je vous salue, ça c'est moins bien. Et je lui dis, écoutez, dans pareille situation, c'est pas de cette manière-là qu'il faut prier, monsieur. Mais cet homme-là, entre-temps, a découvert le petit livre, et d'ailleurs ça l'a tellement interpellé qu'il l'a même filé à plusieurs amis qui sont aussi allés voir des magnétiseurs et qui ne sont pas du tout dans la foi. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, je regrette ce que j'ai fait, je reconnais que ce n'est pas bien. Et puis j'ai prié pour lui, tout simplement, au téléphone. Et c'était terminé. Hein, plus de cauchemars, et les bourdonnements aussi sont partis. Donc tout ça pour vous montrer que... Pourquoi ? Il y a une porte qui a été ouverte et chez lui, ça s'est manifesté de cette manière-là. Vous avez aussi des personnes qui vont avoir des maladies. Alors, étant donné que l'accès ou la porte d'entrée a été ouverte, on donne, en donnant la porte, les clés pour notre âme et pour notre esprit, on donne aussi les clés pour notre corps. Et par conséquent, les esprits en venant peuvent également causer des maladies. Nous le voyons par exemple dans les évangiles, nous le voyons à plusieurs reprises dans les évangiles. Alors, il faut faire preuve d'une grande prudence et d'une grande sagesse, et surtout pas dire à quelqu'un qui serait malade ou qui souffrirait, même s'il était dans le monde occulte, et lui dire « tes maladies viennent de là ». Absolument pas. Pas du tout. On ne va pas agir de cette manière-là. On va l'accompagner, on va prier pour elle. Et effectivement, s'il y a un lien... Par rapport à ça, le Seigneur peut la délivrer et aussi la restaurer, comme il peut aussi ne pas le faire s'il a autre chose de prévu. Mais ça peut également avoir une incidence. Et la 7e conséquence, c'est une possession. Alors quand je parle de possession, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure lorsque nous parlerons des différents niveaux d'oppression spirituelle. La possession, c'est vraiment la personne qui est squattée, qui est habitée. Comme cet exemple que je vous ai raconté de ce jeune homme qui venait de l'île Maurice, qui pourtant faisait partie d'une église évangélique et qui parlait toujours du Seigneur, mais qui avait du mal à parler de Jésus, qui avait du mal à lire sa Bible, qui n'aimait pas trop la louange et qui finalement, lorsqu'il a été délivré de je ne sais combien de démons, a découvert qu'il n'était pas né de nouveau, quoi. Hein ? Absolument pas. Et donc lui, il était vraiment squatté et habité par de nombreux esprits. Donc ça, c'était un petit peu pour vous parler des conséquences. Alors maintenant, voyons un petit peu comment faire concrètement pour aider une personne sous emprise spirituelle. Moi, je vous parle un petit peu de quelques données que j'ai pu glaner dans l'Écriture. C'est plus au niveau théologie pastorale ce que je vous dis ici et de ce que j'ai pu vivre. Je ne me considère pas comme un spécialiste du sujet. J'ai une certaine expérience. J'ai des amis qui ont bien plus d'expérience que moi et qui seront bien plus pointus. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande, entre autres, les deux excellents livres du pasteur Gilles Boucomont, que vous connaissez peut-être. Gilles Boucomont est pasteur à l'église du Marais. Encore lundi, je l'ai vu, il a donné dans le cadre du renouveau charismatique à Strasbourg, nous avons vécu un temps autour du Saint-Esprit, c'était vraiment un chouette temps. Et Gilles Boucomont fait partie de la paroisse du Marais. Il a pris cette paroisse il y a 12 ans de cela. C'est une paroisse où il y avait 10 personnes. Maintenant, ils sont plus de 500 personnes au culte les dimanches. Et ils ont accompagné je ne sais combien de personnes. Ils ont accompagné je ne sais combien de personnes qui se sont converties, des personnes qui viennent de l'islam, des homosexuels. Ils ont je ne sais combien d'homosexuels qui viennent dans leur église parce qu'ils s'y sentent bien. Certains sont en cheminement, d'autres pour l'instant ne veulent pas. Ils ont accompagné aussi des chanteuses de R&B, à un moment donné, Dieu leur a envoyé par vagues, des vagues de personnes. C'était 10, 15, 20 personnes, après c'était 20 personnes avec tel profil, après c'était 20 personnes avec tel profil. Et donc c'est une église qui a beaucoup grandi. Et la force de Gilles Boucomont, c'est d'avoir formé beaucoup d'équipiers. Il a 50 équipiers dans son église qui font tout le travail pastoral. Et donc, c'est eux qui accompagnent, selon un certain protocole, toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur cheminement spirituel. Donc, des personnes, pas forcément par rapport à la délivrance, mais simplement les accompagner au niveau spirituel, tout le monde, tous ceux qui souhaitent être accompagnés à un moment donné. Et donc, il a écrit deux livres sur le sujet. Un premier livre qui s'intitule « Libérer l'âme, le corps et l'esprit », qui malheureusement, je crois, n'est plus disponible aux éditions Première Partie. Vous le trouvez sur Amazon. Et puis un deuxième, encore plus gros, un gros pavé, qui s'intitule « Libérer au nom de Jésus », je crois, quelque chose comme ça. Donc, Gilles Boucomont, Boucomont, B-O-U-C-O-M-O-N-T. D'ailleurs, là, je suis en train de reprendre un peu plus approfondi là ces ouvrages qui sont très très intéressants sur le sujet. Et donc, à mon avis, c'est un des plus pointus actuellement concernant l'accompagnement spirituel dans le monde protestant évangélique. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, quelques préalables par rapport à l'accompagnement spirituel. Alors, premier préalable, je ne le développe pas parce que nous en parlerons ce soir, vous avez autorité. Donc, j'en dis pas plus sur le sujet, j'en reparlerai ce soir de cela. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième préalable, les qualités de celui qui prie. Alors, quelques qualités. Je ne veux pas mettre un accent trop fort sur les qualités. Nous savons que tout est grâce. Ceci dit, quelques qualités quand même qui sont importantes lorsqu'on accompagne quelqu'un au niveau spirituel. Première qualité, la sainteté. La sainteté dans le sens ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi. Vivre pour nous-mêmes autant que faire se peut dans la lumière et ne pas donner ainsi accès au diable. Parce que vous savez que quand on vit, mène une vie de patachon, c'est possible en tant que chrétien, ça se rencontre. Mais en menant une vie de patachon, en faisant n'importe quoi, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et par conséquent, si après on doit accompagner quelqu'un au niveau spirituel, ça risque de nous causer du tort à nous-mêmes, ça risque de causer du tort à l'autre, et à un moment donné, ça risque d'être déstabilisant. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas nous utiliser, absolument pas. Il y a parfois une conception qu'on rencontre dans les milieux évangéliques où on s'imagine qu'il faut friser une sorte de perfection pour que Dieu commence à nous utiliser, ou pour que Dieu nous utilise, que ce soit pour le salut, pour la libération, pour la guérison, absolument pas. Je pourrais vous raconter je ne sais combien d'exemples d'évangélistes, notamment un évangéliste qui bossait en Afrique et qui malheureusement avait une femme dans chaque port, et le Seigneur l'utilisait pour amener des dizaines ou des milliers de personnes à la fois, le Seigneur l'utilisait pour guérir des malades. Et les gens étaient réellement guéris, puisque c'était au nom du Christ. Mais à côté de ça, ils vivaient n'importe comment jusqu'au jour où ça a été découvert. Et du coup, ça a causé du tort sur le corps de Christ, pour lui-même, pour son épouse, pour sa famille, et c'est l'œuvre de Dieu qui en a pâti. Tony Anthony, vous connaissez son histoire, j'imagine. Moi, je connais pas mal de gens qui ont rencontré le Seigneur grâce à lui. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. L'évangile qu'il a annoncé, c'était l'évangile. Moi, j'ai même encore certains PowerPoint ou certaines vidéos qu'il a faites qui sont excellentes, qui sont très très bien pour présenter l'évangile. Et à côté de ça, apparemment, il y a des choses qui ne sont pas aussi claires que cela. Maintenant, je dis quand même que mieux vaut marcher, en tout cas l'Écriture nous encourage dans ce sens-là, dans la lumière. Deuxième qualité, l'humilité. Nous nous rappellerons, et on reviendra lorsqu'on parlera de l'œuvre du Christ ce soir, que notre force réside dans la personne du Christ et que la délivrance n'est possible que grâce à l'autorité que Jésus nous a déléguée et son œuvre à la croix. Sans lui, nous ne pouvons rien faire et sans lui, nous ne pouvons pas influer sur le monde des démons. Absolument pas. C'est seulement parce que nous sommes, comme nous l'avons vu hier soir, assis avec le Christ dans les lieux célestes et que par conséquent, nous sommes au-dessus de ce monde spirituel et que nous avons son autorité, nous reparlerons de l'autorité ce soir, que nous avons la possibilité de libérer ceux qui sont là. Par conséquent, on fait attention à ne pas trop se faire mousser et on reste humble dans le sens soumis au Christ, conscient de notre petitesse et conscient aussi que sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons pas y aider ou libérer les autres, en tout cas de manière efficace. Il y a bien sûr d'autres formes de libération qui existent. Vous savez, dans le monde occulte, ils trouvent des solutions eux-mêmes. J'ai rencontré pas mal de médiums et certains, lorsqu'ils vivent ou lorsqu'ils ont des contre-coups, y compris les guérisseurs, ils vont voir un collègue ou quelqu'un d'autre qui va leur donner une technique pour pouvoir contrecarrer certains effets pervers de leur pratique. Le problème, c'est que c'est le chat qui se mord la queue. Il y a certains effets pervers qui vont être contrecarrés, mais après, puisqu'ils ont acquis une nouvelle technique ou un nouveau don, un nouveau pouvoir, il y a d'autres effets qui se manifestent. Et puis ensuite, ça continue comme ça. Donc, ils connaissent certaines libérations, certaines aides, certains secours dans ce monde-là, mais ça n'a rien à voir avec l'aide que le Christ apporte. C'est totalement différent. C'est toujours, les gens restent toujours liés, ficelés et embêtés. Mais il ne faut pas dire qu'ils ne connaissent rien. Ils savent très bien qu'il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres. Par exemple, les médiums vont vous parler, ils vont vous dire, là j'ai rencontré un médium, c'était au mois de décembre, un gars qui, je vous en parlais hier soir, qui était en train d'être formé à Paris, il me dit, on va pas toucher au bas astral. Donc le bas astral, dans leur langage, c'est l'endroit qui est sombre, qui est noir, c'est là où se trouveraient les démons ou les esprits qui sont mauvais. Et eux, ils s'intéressent à ce qui est en haut. En haut, soi-disant, ce seraient des esprits qui sont plus sympathiques ou qui sont plus gentils. Mais en réalité, nous le savons, tout ça, c'est la même famille. Ils appartiennent tous à la même famille. Ils sont tous frères et sœurs, tous cousins là-dedans. C'est simplement des modes opératoires qui sont différents. Donc, ils savent qu'il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres. Mais déjà, là où ils se trouvent, ils voient aussi des conséquences et ils sont parfois bien embêtés. Et puis, troisième qualité, l'obéissance. Dans le sens que quand nous aidons quelqu'un ou quand nous prions pour une personne, il y a des moments où nous avons envie, où nous aurons peut-être envie de le faire, mais il y a des moments où on n'a pas forcément envie, parce que peut-être on n'est pas dans les bonnes dispositions, ou peut-être à ce moment-là, on aurait peut-être autre chose à faire, on aimerait bien que ce soit l'église locale qui s'en charge. Non, nous aidons les personnes parce que nous souhaitons obéir au Seigneur, et le Seigneur qui nous dit aussi d'aller libérer les captifs. Et donc, c'est à nous de libérer les gens, c'est à nous de les accompagner. Nous reviendrons là-dessus ce soir, et quand je dis nous, c'est vraiment l'Église, corps de Christ, qui est appelée à effectuer et à faire ce ministère-là. Pas simplement quelques ministères qui seraient spécialisés ou plus éclairés que d'autres, absolument pas. Dans les préalables, troisièmement, si possible, essayez de vous entourer d'une personne ou alors d'une équipe. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, l'idéal n'est pas toujours possible. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans cette situation où j'avais personne avec moi, où j'étais tout seul. Et puis, tout d'un coup, il y a un problème qui se manifeste. Il faut le régler. Maintenant, je suis content, j'ai quand même deux frères dans mon église qui peuvent m'accompagner. Donc, de temps en temps, je les prends avec moi, soit l'un, soit l'autre, soit il y en a un qui Elle me dit, écoute, moi j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux venir avec moi? Et donc je l'accompagne, c'est quand même bien, c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce qu'en étant deux ou en étant trois, on peut mieux discerner aussi. Hein. On peut mieux discerner, ça c'est la première des choses, et c'est toujours bien de pouvoir partager, et, ou parfois je le fais avec mon épouse aussi, mais il y a des cas où ce n'est pas possible, parce que tout d'un coup vous êtes coincé. Et puis il y a des cas où c'est impératif. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens en entretien, et puis j'ai vu qu'il y avait vraiment du monde, et que c'était du lourd, et dans ce cas-là, j'aurais dit, écoutez, je ne vous prends pas aujourd'hui, mais on fixe un rendez-vous, et si vous le souhaitez, je vous propose que nous soyons deux ou trois personnes, parce qu'on voit que c'est un cas, entre guillemets, qui est lourd. Il faut distinguer un petit peu de ce que j'appelle les cas usuels des cas qui sont un petit peu plus compliqués. Les cas usuels, c'est les personnes qui peut-être vont avoir quelques liens sur leur vie, etc., et qui peuvent être vite réglés, entre guillemets, et puis des cas plus compliqués qui nécessitent un travail de fond, un travail de repentance, un travail d'accompagnement spirituel, et dans ce cas-là, mieux vaut être deux, trois personnes. Ça peut être bien aussi d'informer la personne, de prévoir un lieu d'entretien, de préparer le lieu d'entretien. Alors tout ça, c'est pas toujours possible. Moi, je sais que parfois, quand je donne des conférences dans des églises sur le sujet, je vais essayer de me trouver un endroit où je peux être tranquille. Je vais veiller aussi à ce que l'endroit soit aménagé de manière un petit peu sympathique. Et puis surtout, choisir, oui, un endroit qui soit approprié, autant que possible à l'écart. Veiller aux objets dans la pièce, parce que si la personne tombe, elle peut se faire mal. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les gens ne tombent pas toujours, ils ne rampent pas toujours, mais ça peut arriver. Et puis aussi, pour moi, ce qui est très important, c'est rassurer les personnes, hein, pour un entretien comme ça. Il y a parfois des personnes qui sont, je l'ai vu à quelques reprises, la dernière fois c'est un copain pasteur du Renouveau Charismatique qui m'a fait venir chez lui à Benfeld, parce qu'il y a tout d'un coup une dame qui débarque. Alors qu'elle devait être opérée, elle a eu peur et elle a pris sa Bible avec elle à l'hôpital. Et la veille de l'opération, elle tombe sur le passage du Deutéronome où c'est marqué tu n'iras pas voir les voyants, tous ceux qui font ça, etc. Dieu les a en abomination. Et elle-même réalise que le don de voyance qu'elle a, Dieu n'est pas d'accord avec. Cette femme, elle avait vraiment un don de voyance assez fort. Et ça l'a perturbée. Donc elle a été opérée et par la suite, elle est allée voir le pasteur, lui demander ce qu'elle pensait. Et donc lui, il a eu déjà un entretien avec elle. Et puis quand il m'a fait revenir, on a eu un entretien avec elle. Et cette femme, elle avait peur, quoi, mais vraiment peur. Alors, il y avait une grande part, c'était les esprits qui étaient là et qui la tenaient, mais on a pris du temps vraiment aussi pour la rassurer, pour lui expliquer comment est-ce qu'on allait fonctionner, non seulement ce que Dieu disait sur le sujet, et puis comment est-ce qu'on allait faire pour prier pour elle. Voilà. On a dit d'abord, on va prier, on va placer cet entretien on va invoquer le nom du Seigneur Jésus déjà. Ensuite, on va inviter l'Esprit de Dieu à venir parmi nous pour nous conduire dans ce moment-là. Et pour nous inspirer, pour vous parler à vous aussi, pour nous parler à nous aussi. Et puis ensuite, on va se mettre à côté de vous. Dans certains cas, on va imposer ou non les mains, etc. Et puis on va s'adresser à ces esprits qui sont là dans votre vie et on va leur dire au nom de Jésus de partir. Et donc voilà ce que nous allons faire. Et puis si vous sentez quelque chose à ce moment-là, ou s'il y a quelque chose qui se passe, que tout d'un coup vous commencez peut-être à trembler ou quoi que ce soit, ne vous en faites pas. Nous sommes là et nous allons rattraper le coup. Donc, il faut rassurer les gens parce que certains, ils sentent que ça remue en eux. Ce n'est pas toujours le cas, mais donc ça peut les effrayer, sans parler du combat spirituel qui est en train de se jouer parce que les esprits ne sont pas contents et la personne est victime de cela et vous êtes là en train de parler du Seigneur et il y a une atmosphère où le Christ est présent, où le Saint-Esprit est là. Et donc, tout ça, ça crée un conflit, des tiraillements, un bouleversement dans la personne. Les choses ne se passent pas toujours ainsi, mais ça peut arriver. Donc, bien prendre le temps de poser les choses. Ensuite, l'entretien de discernement, c'est ce que je disais, hein, rassurer, expliquer à la personne comment est-ce que vous allez procéder. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, il y a des cas où on n'a pas pu le faire, on ne s'y attend pas. Moi, ça m'est arrivé de prier pour des gens, et puis tout d'un coup, ils se mettent à trembler, et puis je me dis, il a l'air chargé, celui-là, et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avant. tant pis, on continue. Priez, placez le moment sous la direction de l'Esprit, demandez lui aussi le discernement nécessaire, parce que les démons sont vraiment rusés. Posez des questions si besoin, prenez le temps pour l'entretien préalable. Moi, je prends toujours un certain temps pour l'entretien préalable, pour poser des questions. Vous pouvez vous aider d'un questionnaire. Il existe deux ou trois questionnaires qui sont, notamment que Richard Maurice, un collègue qui travaille là-dedans, a réalisé. Et puis, vous pouvez aussi simplement prendre un carnet avec vous, ouvrir un traitement de texte sur votre ordinateur ou votre tablette. Et vous notez, parce que la vie de certaines personnes est parfois un petit peu compliquée, les ramifications ne sont pas évidentes, donc ça demande une certaine concentration nécessaire, mais prenez le temps de poser des questions, surtout quand les gens ne discernent pas forcément tout de suite d'où peuvent venir les liens, etc. Il arrive qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne sait pas forcément comment ça se fait que la personne se retrouve avec des liens. Je pense à mon ami Walter Vapiani, qui a écrit un livre que je vous recommande sur le sujet, La guérison du guérisseur. Ben, Walter était un ancien guérisseur, c'était quelqu'un qui a été même formé par les guérisseurs spirites, philippins, ceux qui opèrent à main nue, etc., sans faire d'incision. Puis il y a du sang, il y a de la matière qui sort. Lui, il a épongé des dizaines de litres, quoi. Il m'a dit, je ne voyais aucune incision, il n'y avait aucun truc. La personne avait les bras totalement dégagés. Elle en faisait 50 le matin, des opérations comme ça. Et puis lui, il épongeait. Hein, et puis un jour, elle lui a imposé les mains avant de partir. Et lui, il a encore eu plus de dons. Donc lui, il allait dans une salle, il voyait les maladies de tout le monde. Il pouvait dire, toi, tu as mal ici, t'as ci, t'as ci, t'as ça. Toi, t'as ça. Mais à tel point que ça devenait invivable, parce qu'il était, il allait dans la rue, il voyait tout ce que les gens, ils avaient, quoi. Donc il était victime, finalement, de ça. Et quand il s'est converti, quand il a été délivré par la suite de ses dons, plusieurs mois après, il s'est posé la question, mais d'où est-ce que ça vient? Et il ne voyait pas d'où ça venait. Et c'est en faisant un voyage en Italie qu'il a découvert que son grand-père était guérisseur. Mais il ne le savait pas quand il était gamin, et c'était une chose dont il ne parlait pas. Et donc c'est seulement bien plus tard qu'il a découvert qu'il y avait des liens dans sa famille. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le savait pas que ça l'a empêché, ça ne l'a pas empêché d'être délivré. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on ne peut pas accompagner les gens et que ceux-ci ne peuvent pas être délivrés. Mais parfois, les gens en ont besoin pour eux-mêmes, simplement pour comprendre un petit peu, parce que quand quelqu'un vit... Vous avez des gens qui vivent des délivrances qui sont vraiment remués, hein, qui sont fortement secoués spirituellement. C'était l'année dernière, j'ai accompagné un monsieur qui a été délivré de je ne sais combien d'esprits de démons, et dans les mois qui ont suivi, chaque fois qu'il me voyait, il en reparlait, quoi. Ça l'a remué, ça l'a choqué, quoi. Ça l'a bouleversé, parce que lui ne croyait pas en Dieu, ou un tout petit peu, le diable il ne croyait absolument pas, et il ne s'imaginait pas qu'il y avait des esprits sur sa vie, quoi. Alors à tel point qu'il est revenu je ne sais combien de fois après, parce qu'il voulait que je prie pour lui, pour qu'il soit encore délivré, mais il n'y avait plus rien, quoi. Et les gens, parfois, après, justement, ils ont des craintes, il a découvert ce monde spirituel, et pour lui, ça l'a traumatisé. Et il avait besoin de mettre des mots, M-O-T-S, sur ce qu'il avait vécu, et il voulait savoir d'où ça vient, mais à ce jour, on ne sait pas encore d'où ça vient, mais ça ne l'a pas empêché d'être délivré, et puis maintenant de se rapprocher vraiment du Seigneur. Écoutez pendant l'entretien pour découvrir quels sont les éléments importants. Souvent, c'est relativement facile. Observez les réactions aussi, notez les liens, les péchés, les fausses croyances. Et puis, surtout, regardez la personne. Regardez toujours la personne, non pas d'un regard inquisiteur, mais regardez-la, observez-la. Parce que l'esprit peut se manifester, vous avez des gens qui peuvent changer. Tout d'un coup, les rictus, hier soir, nous parlions des rictus sur le visage. Un jour, j'ai eu un entretien... Un pasteur qui vient avec quelqu'un de sa famille, et puis alors qu'on était dans l'entretien, tout d'un coup, je dis un mot concernant son passé, et cette personne-là, devant moi, là, a totalement changé, quoi. Son visage s'est métamorphosé, mais littéralement métamorphosé, quoi. Un maquilleur à Hollywood, il n'aurait pas fait mieux, quoi. Sauf que là, ça a été fait en quelques secondes, quoi. C'était plus elle. Avait un souffle rauque qui tout d'un coup venait, qui se manifestait, elle était prise, elle était totalement, c'était quelqu'un d'autre, c'était l'esprit qui se manifestait, quoi. Hein? C'était un cas d'ailleurs très 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 lourd. Alors c'est pas toujours comme ça. Dieu merci, heureusement. Mais voilà, être sensible un petit peu à ça. Vous avez aussi des gens qui parfois vont s'endormir. Hein. Notez ça. Moi j'ai remarqué ça. Enfin au début je le savais pas. Et c'est un copain Richard Maurice qui me dit fais attention Manu. Parfois pendant le temps d'entretien et de prière tu vas voir il y en a qui vont dormir. Mais qui dorment et c'est spirituel. Un jour, j'accompagnais comme ça avec quelques anciens dans une église un jeune couple qui venait et la fille avait des liens. Et alors qu'on commence à parler avec elle, elle s'est assoupie 3 ou 4 fois, quoi. Mais 3 ou 4 fois, on a été obligé de la secouer, de la réveiller. C'était un assoupissement qui était spirituel, quoi. Il y a un an ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'étais en Bretagne. J'ai un collègue pasteur qui m'a invité. Donc, c'était pour le dimanche de Pâques, c'était en 2015, et le matin j'ai prêché l'évangile à Pâques, et il y a un homme qui s'est converti, entre autres, un monsieur, une force de la nature, et cet homme-là, j'ai découvert pendant le temps d'entretien avec lui après qu'il était magnétiseur, guérisseur, qu'il avait plusieurs dons, et que c'était un homme qui avait une 60aine d'années, qui allait prendre sa retraite, il était éducateur, et que maintenant il voulait se mettre à plein temps comme magnétiseur et guérisseur. Et le Seigneur l'avait retourné le matin comme une crêpe, hein. Il pleurait, quoi, quand il a entendu l'évangile. Bon, il était déjà accompagné depuis quelques mois, et il a donné sa vie au Christ, quoi. Alors je lui pose la question, est-ce que vous pensez que c'est compatible, quoi, hein, de faire ça avec la foi maintenant que vous avez, dans laquelle vous êtes? Et il ne savait pas trop. Et l'après-midi, je donnais une conférence justement sur le sujet de l'occultisme et des guérisseurs. Et il est resté à midi pour le repas, et l'après-midi, il était là. Et il s'est mis au premier rang parce qu'il était très intéressé par le sujet. Et quand je parle du sujet, quand je commence à parler de la face cachée, de ce qui se cache derrière tout cela, je vois mon monsieur là, qui, une force de la nature, le gars, hein, qui est en train de se... Sur sa chaise, il est en train de glisser. Mais vraiment, ouais, comme une sorte de serpent, tu vois, il commence à glisser là, comme un linge qui, il n'y avait plus de colonne vertébrale, il ne se tenait plus, il n'était plus rigide, il devenait tout mou, il était là, il fermait les yeux et il s'assoupissait, quoi. Et puis je le regardais comme ça pour essayer de le récupérer, quoi, hein, hein. Et je me regardais comme ça, et ensuite ça lui arrivait 2-3 fois pendant la conférence. Autant le matin, il était alerte et content, autant l'après-midi, il était mal à l'aise, quoi. Il était content d'être là, mais il était mal à l'aise, il était dérangé intérieurement, il n'était pas bien. Et ensuite, je l'ai eu en entretien avec le pasteur, et il me dit, vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi? Je lui dis, oui, j'ai vu. Il me dit, écoutez, je ne me sentais pas bien, là. Quand vous avez parlé du sujet cet après-midi, je sentais qu'en moi, ça n'allait pas du tout, et c'est comme si quelque chose qui me poussait vers le bas, qui m'assoupissait, c'était spirituel. Et je lui ai posé la question et je lui ai dit avec le pasteur, alors qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces dons que vous avez? Est-ce que vous voulez garder ça, ou alors est-ce que tout ça, vous êtes d'accord avec le verdict de Dieu, vous voulez le déposer devant le Christ et vous voulez refuser, tous ces dons, vous les refusez? Et le gars, il s'est décidé là en 2 minutes. Hein. Moi-même, j'étais scotché. Bon, c'est quelqu'un qui est très, qui n'est pas du tout indécis. Il me dit, quand je vais dans un magasin de chaussures, je mets 2 minutes pour choisir mes choses. Et là, il m'a dit, Jésus, ben, c'est bon, je l'ai choisi, mais dont j'en veux plus. Et donc, il a renoncé à tout ça. On a prié, il s'est repenti, il a renoncé à tout ça. Et puis, nous avons prié avec le pasteur pour le délier, chasser les esprits. Alors, il a vécu 2 mois qui ont été difficiles, hein, parce que souvent, c'est difficile, surtout pour les personnes qui ont vraiment des dons, parce qu'ils vivent des véritables combats dans les semaines qui viennent, et même encore parfois des délivrances. Certains, ils arrivent à vivre des autodélivrances, d'autres ont besoin d'être aidés. Mais ce qui est beau, c'est qu'il a cheminé. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, il peut y avoir plusieurs signes et que ben, un des signes peut être une sorte d'assoupissement. Rien à voir avec ce que on vit parfois, peut-être, ou ce que vous vivez le dimanche matin. Hein. Ça peut être lié ou à d'autres moments parce que voilà, la fatigue est là. Hein. Ça nous arrive à tous. Ça a commencé par moi, quoi. Hein. Parfois, j'ai mon épouse qui me fait comme ça, quoi. Hein. Emmanuel. Alors, les étapes vers la libération. Je vous en propose quelques-unes. Pas forcément, bon là je vous les présente plus ou moins dans l'ordre, en réalité parfois c'est différent, on fonctionne à partir de ce qu'on va pouvoir découvrir, donc là C'est plus l'aspect un peu théorique, après il faut l'appliquer à la pratique. La première chose, c'est les gens doivent vraiment vouloir être libres, vouloir être libres de tout lien avec le monde occulte. Vous avez des gens qui veulent être libérés des conséquences, mais... Oh là, deux fautes là. Mais ne veulent pas de Jésus. Donc vous avez des personnes qui perçoivent qu'il y a des effets néfastes qui sont liés à certaines pratiques ou à des sorts qui leur ont été jetés, mais elles ne sont pas d'accord avec le verdict biblique et Jésus, elles n'en veulent pas vraiment. Et elles ne sont surtout pas d'accord avec le fait que Jésus intervienne au moins dans ce domaine de leur vie. Et donc là, ça va être difficile. Un jour, j'ai une dame qui me téléphone de Lyon. Je ne sais pas comment elle a eu mon téléphone. C'était dans les deux ou trois premières années où mon livre était sorti le premier. Et cette femme, une femme de... Elle devait bien avoir 70, 72 ans, me téléphone de Lyon. Elle me dit, écoutez, pasteur, j'ai ma fille qui est en Afrique du Nord en ce moment. Elle fréquente un gars qui, au niveau spirituel, fait n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'elle m'a jeté un sort parce que depuis qu'elle est avec ce gars-là, il y a des drôles de manifestations que je vis. Et entre autres, me dit-elle, quand je passe devant une croix ou devant une église, je fais le crapaud ou le bruit du crapaud. Alors tu vois, moi, intérieurement, là, je me retiens pour pas rire, quoi. On vous dit ça au téléphone, hein. Faudra pas diffuser, hein, ce qu'on enregistre là, hein. J'ai des séries sur le sujet qui sortent, mais je donne pas forcément tous les exemples dans les séries puisque c'est pour le grand public, hein. Ça reste entre plus au niveau local, quoi. Hein. Et donc elle me dit, je fais le crapaud. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, hein? Et alors, pendant là, une minute, dans ma tête, je ris plus ou moins, je ne sais pas trop quoi lui dire. Alors je lui dis, mais allez-y, hein, passez devant une croix ou devant une église ou devant le portrait de votre fille, ça faisait la même chose. Et c'est ce qu'elle fait, elle passe devant. Et au moment où elle passe devant, cette femme se met à faire le bruit du crapaud. Alors, les 30 premières secondes, j'ai rigolé, quoi, dans ma tête. Et puis après, j'ai compris que c'était pas du cinéma, quoi. Cette femme n'arrivait plus à s'arrêter. Et ça lui faisait mal, pire qu'un hoquet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi. Alors bon, elle me parle. Du coup, elle avait du mal à me parler parce qu'elle était prise par ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, je vais prier pour vous. Et donc, j'ai lié les esprits. Hein, et cette femme était bien pendant plusieurs semaines. Et puis, plusieurs semaines après, elle me téléphone et elle me dit, écoutez, pasteur, ça recommence. Alors je lui dis, écoutez, vous avez vraiment besoin de Jésus et vous avez besoin d'aller plus en profondeur que simplement qu'on prie pour vous. Il y a des choses certainement plus profondes. Moi, je ne peux pas vous accompagner là parce que je suis à Strasbourg, vous êtes à Lyon, mais je propose de vous mettre en relation avec un collègue pasteur. Elle me dit où elle habite et puis effectivement, elle habitait juste à côté d'une église évangélique. Donc elle est allée dans cette église évangélique, le pasteur l'a accueillie avec un de ses anciens, deux fois en entretien. Et puis, quelques temps après, il m'écrit, il me dit, écoute, quand elle voit une croix ou prononce le nom de Jésus, etc., elle se met à faire le crapaud, mais cette personne-là, eh bien, elle ne veut pas de Jésus. Elle ne veut absolument pas de Jésus, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle voulait juste une petite aide à ce niveau-là et elle n'était même pas d'accord avec le verdict de l'Écriture. Vous voyez ? Donc, c'était très compliqué. Alors, moi, ce que je demande aux gens, c'est le minimum syndical. Hein ? Alors, on ne procède pas tous de la même manière. Hein ? Le minimum syndical, et le minimum syndical, c'est au moins que la personne soit d'accord déjà avec la vision biblique ou la vision spirituelle sur le sujet. Et puis, si elle y est pour quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si elle y est pour quelque chose, qu'elle... comme ce monsieur qui m'avait téléphoné de Haute-Savoie, qui a pris conscience qu'aller voir les magnétiseurs, c'était pas bien, que c'était un péché, il a demandé pardon à Dieu. Au moins demander pardon à Dieu, peut-être pas pour tous ses péchés de manière précise, et je ne vais pas leur demander d'accepter le Christ au préalable, mais au moins de se repentir, et au moins d'être d'accord avec le verdict de Dieu, pardon, par rapport au sujet. Ou comme cette jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a vu le monde spirituel, elle a dit, moi j'en veux pas, je lui ai pas demandé de se repentir parce qu'elle n'y pouvait absolument rien, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, c'était des liens dans la famille, par contre elle a dit, moi j'en veux pas, et je dis, dans ce cas-là, nous allons prier. Et donc moi je prie pour les gens. Il y en a qui disent « Ah, mais il faut qu'ils se convertissent, et puis c'est seulement s'ils se sont convertis qu'on va pouvoir les délier, etc. » Moi personnellement, je ne procède pas ainsi parce que je ne vois pas Jésus faire ça dans les évangiles. Comme je vous le disais hier soir, Jésus a chassé bien des démons, libéré bien des personnes, guéri bien des personnes, et ces hommes et ces femmes, apparemment, on ne sait pas s'ils se sont devenus des suiveurs du Christ. Ils ont simplement bénéficié de son aide à un moment donné précis, une aide qui a été vraie, réelle, efficace. Et puis ensuite, ils ne se sont pas forcément convertis. Donc moi, je ne vais pas forcément demander aux gens de se convertir. Et j'ai remarqué que même s'ils ne vont pas dans ce sens-là, ils peuvent réellement vivre des délivrances. Après, il faut vraiment faire au cas par cas, hein, pour accompagner. Et c'est certain que si vous priez pour quelqu'un et que cette personne-là continue de baigner dans un environnement occulte, ça va être difficile. Et parfois même, je leur dis, mais vous savez, ça va être difficile si je prie pour vous. Ils vont partir. Mais si vous-même, vous continuez à vivre dans un environnement, même si vous ne le recherchez pas, mais parce que vous êtes dans un environnement occulte, ça va, vous allez vivre des tensions, des conflits qui vont être terribles là. Hein ? Le mieux, c'est que vous abandonniez tout ça, que vous confiez votre vie au Christ et vous serez bien mieux. Et parfois, les gens ne le veulent pas forcément. Donc dans ce cas-là, une chose qu'on peut faire, c'est ce que tu évoquais hier soir, ben le voilà, il revient juste, hein, c'est une possibilité pratiquée par certains qui consiste à ne pas chasser les esprits, mais dans ce cas-là, à les lier, ça veut dire qu'ils restent toujours présents, mais vu que le Seigneur nous a donné son autorité, nous pouvons commander aux esprits certaines choses pour que la personne soit apaisée. Autrement dit, son problème n'est pas réglé, mais elle va être apaisée. C'est une possibilité. Il n'y a pas forcément, je ne vois pas forcément de précédent dans l'Écriture, ou en tout cas, je n'y pense pas là tout de suite, mais c'est une possibilité. Surtout si vous avez affaire à un cas qui peut être complexe. Mais autrement, si la personne n'en veut pas, bien pas de souci, vous la déliez et vous chassez les esprits s'il y a lieu d'être. Donc, être d'accord avec cela. Ensuite, une vraie repentance et une vraie foi dans le Christ. Si toutefois, bien sûr, la personne est d'accord avec le verdict de l'Écriture, et qui plus est, si c'est une personne qui souhaite se convertir. Donc dans ce cas-là, vous pouvez noter mentalement tous ses péchés ou toutes les pratiques auxquelles elle a participé et dont elle souhaite se débarrasser. Ça peut être bien vraiment pour accompagner des personnes. Aussi des personnes qui, à un moment donné, vont se convertir, mais qui continuent d'avoir des liens dans leur vie et on ne voit pas forcément d'où ça vient. J'ai mon collègue Richard Maurice qui a pondu ce qu'il appelle une feuille d'inventaire spirituel. Et dans cette feuille d'inventaire spirituel, il a listé toutes sortes de pratiques auxquelles on peut participer. Alors bon, il y en a qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on ne sait plus forcément tout ce qu'on a fait. Et moi, je pense que personnellement, dans la repentance, il faut être précis. Hein, pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai pu faire, pour tous les péchés que j'ai pu faire. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Amen, alléluia, c'est terminé. Bon, c'est déjà bien de reconnaître que je suis pécheur, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais la repentance est normalement dans l'Écriture toujours précise. Hein. Je me repens pourquoi ? Je me repens parce que, voilà, j'ai donné mon allégeance à cette voyante ou à ce médium chez qui j'étais. Je me repens parce que j'ai beaucoup calomnié ce frère ou cette sœur. Que ce soit à l'église, que ce soit en dehors, constamment, j'ai dit du mal sur cette personne-là. J'ai vraiment dit du mal, que ce soit justifié ou non, mais j'ai dit. Donc je te demande précisément pardon pour ce mal, pour ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Ce sont des paroles de malédiction que j'ai balancées sur l'autre et que je balance aussi quelque part sur moi-même en tolérant que des choses mauvaises, des paroles mauvaises sortent de ma bouche. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose vraiment de précis. Et le fait de noter cela et d'accompagner la personne, si elle le souhaite, dans une repentance précise, et Gilles Boucomont insiste beaucoup là-dessus, a un effet libératoire, terrible. Vous avez des personnes, on n'a même pas besoin de prier pour elles, pour les libérer ensuite, elles sont libérées parce qu'au moment où elles se repentent, où elles confessent la chose à Dieu, et que le Christ accorde son pardon. La personne peut prier, si elle peut le faire, ou alors répétez après vous la prière. Dans ce cas-là, cette étape peut venir après la libération, tout dépend des cas de figure. Vous pouvez aussi utiliser une prière prévue à cet effet. Il y a quelques prières, Richard Maurice, mon collègue, en a quelques-unes, où vous pouvez noter ensuite toutes les fausses croyances ou les péchés ou les liens ou les pactes qui ont été faits et dont la personne veut se libérer. Et dans ce cas-là, vous pouvez répéter à voix haute et elle peut le faire après vous si elle se sent gênée ou alors si elle ne sait pas forcément comment trouver les mots. Maintenant, avec une feuille, c'est plus facile. Donc, le principe est une repentance, si cela est nécessaire, et une confession précise. On ne va pas forcément le chercher avec tout le monde. La jeune fille pour qui j'ai prié, je ne vais pas demander une repentance, une confession précise. Elle n'avait rien demandé, elle n'a rien recherché. Voilà. Maintenant, un autre qui a baigné là-dedans, dans toutes sortes de trucs, oui, on va lui demander une repentance et une confession qui sera ou seront précises. Et c'est parfois une étape qui n'est pas vécue hein, dans beaucoup de nos communautés. C'est pourquoi c'est très important de proposer pas simplement des accompagnements de relations d'aide, mais un véritable accompagnement pastoral. Et l'accompagnement pastoral va plus loin que la simple relation d'aide ou que la simple relation psychologique. On s'intéresse, comme son nom l'indique, à l'âme, aux émotions, à la volonté, aux croyances, aux fausses croyances, etc. On veut vraiment faire un véritable travail sur soi. Et dans ce travail-là, peuvent apparaître eh bien, des croyances, des liens parfois, des péchés, des liens qui ne sont pas forcément des liens qui sont, qui sont puissants et qui vont partir au travers d'une expulsion où la personne va tomber ou que sais-je, absolument pas, mais des liens qui peuvent handicaper la personne. Je me rappelle en Haute-Savoie, un jour j'étais pour une conférence aussi, puis il y a une dame à la fin qui vient avec son mari et cette dame était d'origine africaine et elle me dit « Toutes les nuits je suis réveillée à 3 heures du matin ». Mais c'est systématique, toujours réveillée à la même heure et avec le sentiment d'une présence mauvaise qui est là. Et cette femme-là avait été éduquée dans un milieu très très aisé et ne connaissait pas grand-chose au niveau des pratiques et des croyances qui se vivaient en Afrique et même des liens qui pouvaient y avoir. Et elle était embêtée par ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Hein. Elle aimait profondément le Seigneur avec son mari, etc. Mais c'était un truc qui l'embêtait tout le temps la nuit. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et puis finalement, on a creusé un petit peu, et puis on s'est dit, ben voilà, elle découvre que dans sa famille, il y avait ci, il y avait ça. Et je dis, nous allons simplement maintenant invoquer le nom du Seigneur. Et j'ai prié pour elle et son mari, ça a duré 30 secondes, même pas. Et bien, à partir de ce moment-là, 2 mois après, je la revois, elle m'a pris dans ses bras, quoi. Hein. Elle m'a dit, ah, c'est extraordinaire. Je dis, ben, il faut dire merci au Seigneur de l'extraordinaire. Hein. C'est lui qu'il faut remercier. C'était fini, elle n'était plus du tout perturbée. C'était terminé. Donc, voilà, c'était pas grand-chose. Et en même temps, c'était bien embêtant. Donc parfois ça peut apparaître suite à un enseignement qu'on va entendre, tout d'un coup l'Esprit de Dieu nous éclaire, ou dans le cadre d'une relation pastorale. Ensuite advient la prière de libération. Alors quelques petites choses, on en reparlera ce soir un petit peu, mais sachez que vous avez l'autorité pour libérer les gens et pour chasser les démons au nom de Jésus. Même les femmes ont cette autorité. Extraordinaire, hein ? Ça, c'est pour quelqu'un. Donc, vous avez l'autorité pour libérer les gens et puis pour les accompagner, puisque en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, même si nous conservons, nous restons, voilà, homme, nous restons femme, mais en Christ, il y a une réconciliation, il y a quelque chose, comme au début de la création, qui devrait se vivre, comme le Seigneur l'avait prévu, avec Adam et Ève. Donc ayez confiance vraiment en Jésus et en la puissance de son esprit. Il est présent en vous, avec vous, il vous conduit dans ce moment-là. Appuyez-vous sur Jésus quand vous priez pour la personne et sur son œuvre à la croix. Très important, Hein, c'est la victoire du Seigneur que vous proclamez. Vous vous appuyez sur son œuvre, on en reparlera ce soir, sur la victoire qu'il a remportée, victoire qui, je vous le rappelle, selon l'Épître aux Colossiens, est une victoire sur les puissances, sur les autorités, sur les dominations. Il nous est dit que là, à la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Donc la croix, c'est bien sûr le pardon de nos péchés, mais la croix, d'un point de vue théologique, dans la pensée, dans la théologie de Paul, c'est la victoire déjà sur les puissances des ténèbres. Et parfois, c'est un pan que nous occultons totalement dans l'œuvre de la croix lorsque nous en parlons. On focalise tout sur le pardon des péchés, oui, effectivement, mais il y a tout cet autre pan qui est une victoire sur l'ennemi, sur les puissances des ténèbres. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans l'Évangile, lorsqu'il va chasser des démons et que les disciples vont chasser des démons et qu'ils reviennent vers Jésus dans Luc 10, ils lui diront, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, eh bien, ah, on est tous surpris. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel. Ça veut dire que la venue de Jésus inaugure le royaume de Dieu et inaugure la défaite de notre ennemi. Faut-il imposer ou non les mains? C'est la grande question. Alors généralement, ce qu'on va dire dans nos milieux évangéliques, c'est qu'il ne faut pas imposer les mains, non pas dans le sens qu'il pourrait y avoir un transfert, même si ce n'est jamais totalement à exclure, puisque dans le monde spirituel, il y a des choses bizarres qui parfois se produisent, mais plutôt pour ne pas prendre de coups ou pour ne pas être projeté, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, il y en a qui imposent systématiquement les mains, hein. Les pentecôtistes, eux, ils imposent toujours, par exemple, les mains. Ceux qui font de la délivrance, Michel Renevier et bien d'autres, ils procèdent souvent ainsi. Si vous voyez que la personne est vraiment blindée au niveau spirituel, que les esprits se manifestent, c'est clair que vous n'allez pas lui imposer les mains. Mais après, vous pouvez commencer à imposer les mains à quelqu'un et tout d'un coup, vous voyez qu'il y a des esprits qui se manifestent. Donc là, vous pouvez prendre une certaine forme de recul. Ce qui compte, ce n'est pas l'imposition ou la non-imposition des mains. Ce qui compte, c'est la parole. C'est les paroles qui vont être prononcées. C'est la manière dont vous allez prier avec l'autorité. Et je rappelle que l'autorité n'est pas une question d'intonation, de puissance ou de non-puissance de la voix, mais que l'autorité, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne et que l'autorité est liée à la personne de Jésus-Christ. Et donc là, vous vous adressez aux esprits que vous soupçonnez qu'ils sont présents, vous n'avez pas forcément besoin de les nommer, sauf si ceux-ci ont été révélés, mais encore une fois, dans le monde spirituel, les démons sont des menteurs, donc par conséquent, difficile et dangereux de discuter avec eux, mais vous leur commandez de sortir et de partir au nom de Jésus-Christ, de quitter l'esprit, de quitter l'âme et de quitter le corps de la personne, ils n'ont rien à faire ici. Et vous priez jusqu'à ce que vous avez l'impression que c'est bon, tout en demandant aussi à la personne, à certains moments donnés, comment est-ce qu'elle se sent. Parfois les gens vous disent, eh bien là j'ai ressenti, il y a quelque chose qui est sorti. Hein, il y a des gens qui se mettent à trembler, il y a des personnes qui parfois peuvent tomber, il y a des personnes qui tout d'un coup vont se trembler de la tête jusqu'aux pieds, il y a des personnes qui vont commencer des personnes qui peuvent tomber, des personnes qui peuvent être projetées, des personnes qui vont avoir des douleurs dans le ventre, hein, qui tout d'un coup, quand vous priez, sont pris. Je pense à un homme là que j'avais rencontré, c'était il y a un an ou il y a deux ans, il m'avait demandé de venir, je ne sais plus comment il m'avait contacté et il m'avait dit, écoutez, mon fils est possédé. Un jeune homme qui faisait un master 2 à Strasbourg. Alors je prends rendez-vous, je vais là-bas le lundi, je crois, matin. Et puis quand j'arrive dans l'appartement, le jeune homme était en slip. Il se promenait là, il était complètement de travers. Il n'allait pas bien et en discutant un peu avec lui, moi j'ai qualifié ça d'un délire mystique. Le gars, il avait des images pieuses, il disait qu'il devait faire des pénitences, il disait qu'il entendait Dieu lui parler et qu'il devait faire telle pénitence. Donc dès qu'il n'y avait pas fait la pénitence, les esprits venaient de nouveau le prendre. Le gars, il était complètement perturbé, c'était impossible d'avoir un entretien et un temps de prière sérieux avec lui. Du coup, j'ai prié pour qu'il se calme et il s'est calmé et il s'est apaisé, il a dormi. Alors je suis allé voir les parents hein, qui m'ont fait venir et je me suis dit, bon tiens, on va creuser un petit peu de leur côté. Et puis je distingue un peu apparemment des liens qui pourraient être peut-être du côté de la maman. Et arrive le temps de la fin de l'entretien et je dis, ben, écoutez, si vous voulez madame, je vais prier pour vous. Si vous êtes d'accord, elle me dit oui. et je vais vous imposer les mains, simplement. Et le mari me dit, est-ce que vous pourriez aussi m'imposer les mains à moi et prier pour moi ? Alors, je sais pas, je dis, ah bah oui, je vais aussi faire pour vous, quoi. Donc je prie pour la dame, il n'y a rien de particulier qui se passe, et je vais derrière le monsieur, et je commence à prier pour lui, et je commence à invoquer le nom de Jésus-Christ sur lui, et le gars, je vois qu'il commence à réagir, quoi. Il commence à trembler, et là, je commence à m'adresser aux esprits qui sont là, et à les chasser au nom de Jésus-Christ. Le gars, il est pris au niveau du ventre, il se courbe comme ça sur lui-même, et il est pris et il commence à vomir, hein, expulsé par la bouche, des démons qui sortent. Ça a duré une dizaine de minutes, quoi. Hein. Alors, moi, j'étais un peu embêté parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Je me suis dit, mince, comment va réagir sa femme à côté? Elle était là, regardez, vous imaginez, vous voyez son mari comme ça, là, qui tremble de partout, qui est pris et qui expulse des démons. Et puis, ça a duré, je ne sais pas moi, 5-10 minutes. Et puis, quand je me suis dit, bon, ça semble terminé, je l'ai remis au Seigneur, etc. Et je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous? Qu'est-ce qui se passe là? Je regarde la femme, je dis, ça lui arrive souvent, votre mari? Elle me dit, écoutez, ça n'arrive jamais, quoi. Et le gars me dit, j'en parle dans le bouquin là sur le combat spirituel, hein, je raconte cet exemple, il me dit, ça fait 30 ans. 30 ans que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi. J'ai souvent dit au médecin qu'il ne devait pas être là, qu'il n'est pas bon et qu'il doit sortir. Et ce gars, il se mettait souvent dans des colères noires. Et il me dit, il y a quelque chose qui est là. Et là, ça vient de partir. Je vous le dis, ça vient de partir. Et c'est cet homme dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, il a pris, pendant les semaines qui ont suivi, même les mois qui ont suivi, il était tout abasourdi. Hein. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Il me dit, moi, je ne croyais pas dans le diable, dans les démons, je ne savais même pas que ça existait. Quoi, hein. Et moi, j'ai des démons comme ça dans ma vie. Quoi. Il n'en revenait pas. Quoi. Mais bon, il n'était pas du tout chrétien, pas du tout éclairé sur le sujet. Donc, voilà, il peut y avoir différentes manifestations. On ne recherche pas la manifestation en tant que telle, ça serait complètement stupide. Il y a des gens qui peuvent être délivrés, il n'y a pas de grande manifestation, mais ils le sont réellement. Ce qui compte, c'est l'œuvre que le Seigneur accomplit dans la vie des personnes. Après, ne vous laissez pas non plus impressionner quand vous priez pour quelqu'un. Hein, ne vous laissez pas prendre par cela, que ce soit par quelqu'un qui tombe, par des voix qui se manifestent, ou alors par les démons qui se mettent à crier, hein, enfin la personne qui crie, parce que les démons qui crient au travers d'elle, lorsqu'ils sortent, hein, comme cette médium pour qui j'avais prié en Bretagne. Voilà, vous le faites simplement par obéissance au nom du Seigneur, et vous êtes là. Très important dans la prière de libération, vous ne demandez pas au Seigneur de délier les gens. Vous ne demandez pas au Seigneur de chasser les esprits. C'est vous qui chassez les esprits. Il y a bien des chrétiens, ils n'ont pas compris ça. Et moi aussi, pendant un certain temps, je n'avais pas capté ça. C'est vous qui vous adressez aux démons, aux esprits, et c'est vous qui les délogez au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi c'est vous? Parce que vous avez reçu l'autorité pour le faire. Donc vous vous adressez à eux et vous leur commandez au nom de Jésus-Christ de partir, vous les envoyez sous les pieds de Jésus, hein, où vous voulez, hein, et c'est vous qui vous adressez à eux. Et parfois il y a des chrétiens qui disent, ah ben, Seigneur, je te prie de venir aider cette personne, etc. Ça ne va pas marcher si vous faites comme ça. Je ne dis pas que le Seigneur dans sa grâce et sa souveraineté va rien faire ou peut rien faire, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous êtes représentant, donc c'est vous en tant que représentant qui faites ce que le Seigneur vous a demandé. Comme si votre patron vous envoie pour une mission, si vous achetez des produits ou si vous achetez, je ne sais rien, il lui dit, tu as une enveloppe de 2 millions d'euros, c'est vous qui allez acheter pour 2 millions d'euros. C'est vous qui allez contracter au nom de l'entreprise, c'est vous qui allez négocier, c'est vous qui allez faire la chose. Vous n'allez pas dire, patron, est-ce que je peux, patron, c'est ici ou ça? Non, non, il vous a délégué, il vous a mandaté, vous avez l'autorité pour agir dans tel... jusque dans tel laps de temps ou avec le budget que vous avez. Et donc, c'est vous qui allez contracter au nom de l'entreprise l'achat ou autre chose. Et donc, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, vous pouvez aussi placer la personne sous le sang précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez également briser tous les liens. Hein, familiaux, parfois lorsqu'on commence à prier pour quelqu'un et qu'on brise les liens au niveau familial, c'est là que tout d'un coup ils vont commencer à bouger et donc vous voyez qu'il y a des liens qui se manifestent, il y a des pactes qui ont été contractés, il y a des sorts qui ont été jetés, Dernièrement, c'est dans une église, je ne sais plus où c'était, c'était en région parisienne. Alors c'était une dame là qui venait du Congo et qui avait été troublée parce que elle, cette femme me dit, écoutez, j'ai un super travail à Paris, je gagne très bien ma vie, etc. Mais l'argent file entre les mains. Et il file entre les mains, non pas parce que je suis dépensière, ou en tout cas, je n'ai vraiment pas l'impression, mais j'arrive jamais à mettre des sous de côté. C'est comme si, elle me dit, c'est comme si j'avais une sorte de malédiction, je ne peux rien garder. Il y a tout qui file, tout qui part, comme ça. Et alors, elle me dit, mais ce matin, j'ai été interpellée parce que je me suis rappelée, me dit-elle, d'un truc que j'ai vécu dans mon enfance. Et dans mon enfance, mon père, qui pourtant se disait ou était chrétien, m'a fait un jour faire un rite et passer entre ses jambes lorsque j'étais plus jeune. Et il dit, voilà, tu vas passer tant et tant de fois entre mes jambes et moi, je vais prononcer des paroles pour attirer sur toi la bénédiction pour que tu aies toujours de l'argent, etc. Et finalement, le rite auquel il lui a proposé de participer, ce n'était pas un rite chrétien, mais c'était un rite de l'ordre du rituel, de la magie, quoi. Et donc, cette dame s'est liée par cela, hein. Elle l'a voulu, c'est son père qui l'a encouragé, mais elle s'est liée par cela. Et elle me dit, mais ce matin, je viens juste de penser à ça. J'avais complètement zappé, oublié ça de ma vie. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. Là, ah, je dis, ben, écoutez, maintenant, on va prier, on va délier. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, hein, si ça va mieux à ce niveau-là. Mais elle m'a dit, il y a quelque chose de totalement anormal, quoi. Vous voyez, parfois, les gens, ils vont prendre conscience et donc, il faut les délier simplement, ou eux-mêmes peuvent le faire aussi. Nous-mêmes, on peut se délier. Hein, il y a des choses dont on peut se délier, on n'a pas forcément que quelqu'un prie pour nous, quoi. On peut simplement se délier du péché, des fautes de nos ancêtres, ou de ce que, si on l'apprend, quelqu'un aurait pu dire sur nous. Attention, je ne dis pas qu'il faut vivre dans une introspection malsaine nous concernant ou concernant nos familles, absolument pas. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, et on n'a pas besoin de le savoir. Mais simplement prier, dire voilà, moi je me suis désolidarisé hein, de certains péchés, enfin pas de certains péchés, des péchés de certaines personnes dans ma famille proche. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas bonnes dans certains domaines. Et quand moi je me suis converti, dans les années qui ont suivi, j'ai dit voilà, moi je me désolidarise, je suis une nouvelle voie que j'inaugure avec mon épouse et avec notre famille. Et donc tous ces liens-là qui ont été transmis, qu'on voit, qui parfois se transmettent à certains enfants de génération en génération, moi je les refuse au nom de Jésus-Christ. Et je brise là toutes ces choses dans quelques domaines que ce soit. Et c'est terminé. Et après, c'est une question simplement de foi et de s'appuyer sur la personne du Christ. Voilà, je vous en ai déjà donné. Alors, les étapes vers la libération, tenir ferme dans la foi, encourager les gens à ne pas vivre une dépendance à l'égard de la prière de libération et de revenir sans cesse pour être libéré. À mon avis, il y a pas mal de problèmes actuellement aujourd'hui à ce niveau-là. Si je prends le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour qui j'ai prié, dans les semaines qui ont suivi, il est au moins revenu 3 ou 4 fois à la maison et il voulait toujours que je prie pour lui. À la fin de l'entretien, il me disait « Ah, est-ce que vous pouvez prier pour moi, Pasteur Manline, parce que là, je sens qu'il y a peut-être encore quelque chose, tu vois ?» Et puis alors au début, j'ai prié 1 ou 2 fois pour lui, mais il n'y avait plus rien. Il tremblait plus, il expulsait plus de démons, quoi. À un moment donné, il a même voulu essayer de le reproduire, hein, lui-même. J'ai dit « Vous arrêtez tout de suite, là. Ça, c'est pas un démon, là. Ça, c'est vous, ça. » Il me dit « Oui. » Je dis, c'est terminé. Maintenant, il faut que vous appreniez à vivre la victoire et à résister vous-même. Et on comprend pourquoi aussi, parfois, dans certains milieux, il y a une dépendance qui s'installe. Il y a des personnes qui ont vécu de vraies libérations, en n'étant pas chrétiennes ou en étant chrétiennes, et pour certains, ça a été tellement fort qu'il y en a qui se demandent s'il n'y a pas encore quelque chose. Ou parfois, il y en a qui veulent revivre un petit peu certaines sensations que ça leur procure. Dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un. Et puis vous avez malheureusement aussi des ministères qui entretiennent cela, qui l'entretiennent consciemment, ou alors la plupart du temps, à mon avis, c'est inconscient, parce qu'ils ont une certaine croyance derrière. Mais en ce faisant, on n'aide pas forcément les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des liens qui peuvent rester, pas, absolument pas. Mais je suis en train de dire que quand il y a une délivrance qui a été opérée, si vraiment il y a une délivrance, une fois que c'est terminé, c'est terminé. On ne peut pas laisser les gens dans le doute et leur dire « Ah, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose, quoi. On verra bien ». Ça peut arriver, on ne l'exclut pas. Mais après, si on a pris le temps de faire un bon entretien pastoral et qu'il y a eu un suivi dans la durée aussi, à un moment donné, il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer. Vous avez des ministères, dernièrement, j'écoutais quelqu'un qui m'envoie la cassette là, d'un ministère en Suisse qui dit des choses intéressantes. Je pense que le Seigneur l'utilise vraiment bien, mais alors dans le temps de prière à la fin, il disait aux gens, on va faire une délivrance collective, et puis voilà, allez, vous allez tous tousser, quoi. Commencez à tousser. Et vous allez commencer à tousser, et puis les esprits ils vont venir et puis ils vont sortir. Alors, tout le monde qui tousse, quoi, hein, pour que les esprits ils viennent, ils sortent, etc. Je veux dire, c'est quoi ces machins-là, quoi. Hein, on va créer une sorte de phénomène collectif après, et puis tout le monde va se mettre à tousser et dire, ah ben moi voilà, j'ai expulsé quelque chose, ben non, t'avais un chat dans la gorge, quoi. Et puis pourquoi est-ce qu'on dirait un esprit qui doit sortir par la bouche, il peut sortir, il y en a qui vivent d'autres, des délivrances d'autres manières, hein. Donc il faut faire attention, et puis vous avez des chrétiens aussi qui finissent pas, quoi, et qui sont toujours là-dedans. Et il y a, à mon avis, dans le corps de Christ, quelques ministères qui, pour moi, sont des ministères que je qualifie d'anxiogènes. Hein, des ministères anxiogènes, c'est-à-dire qui au lieu d'apporter la lumière et d'apporter un espoir et une libération et un enseignement qui soit relativement bien fondé sur le sujet, crée davantage d'anxiété chez les gens. Et les gens, ils s'en sortent pas, ils finissent pas. Comme ce frère qui me dit, ben voilà, j'ai tant et tant de démons qui sont sortis, il y en a encore plein d'autres qui doivent sortir, et cet homme a vraiment vécu une délivrance. Mais après, il a nourri une sorte de relation malsaine à l'égard d'un ministère qui a entretenu cela, et donc ça ne finit pas, ça ne finit pas. C'est sans fin. Et à mon avis, on passe à côté de choses qui sont ainsi importantes. Et puis, on crée aussi des liens dans la vie de la personne à l'égard de ce ministère, au lieu de lui apprendre à résister. Il y a des choses, à un moment donné, qui sont de l'ordre personnel, apprendre soi-même à résister. Comme je disais hier soir, nous avons un pouvoir sur notre âme. Nous pouvons dire à notre âme, hein, mon âme bénit l'Éternel, littéralement, en hébreu, c'est bénit l'Éternel. D'ailleurs, ils l'ont bien traduit puisqu'ils ont mis un S. C'est béni l'Éternel, mon âme. Ça veut dire, mon âme, tu ne vas pas bien. Mon âme, tu es découragée. Psaume 42, psaume 43. Tu ne vas pas bien. Tu es dans la maladie. Tu es dans la souffrance. Tu es dans le découragement. Mais je me dis à moi-même, non, je ne vais pas regarder à ça, mais mon âme bénit l'Éternel. Je veux maintenant dire du bien de Dieu. Je veux maintenant avoir un autre regard. Je veux maintenant vraiment chercher le secours auprès de Dieu. Malgré la circonstance ou les circonstances qui restent difficiles. 1 Pierre 5, 8, 9, nous en parlions hier soir, Jacques 4, verset 7, apprendre à résister au diable, à résister au malin. La louange, ce matin, je ne sais plus qui m'en parlait, effectivement, ou hier soir, la louange est un moyen extraordinaire, parce que dans la louange, Dieu parfois se manifeste. Dieu libère, moi je connais des gens qui ont vécu des libérations dans la louange. Tout d'un coup, Dieu a opéré quelque chose. Après, la louange ne doit pas être utilisée comme une sorte de mantra. Parfois, c'est le cas dans nos églises évangéliques, hein. Pendant 20-25 minutes, il faut 40-45 minutes, d'autres ils leur font une heure de louange, et seulement après une heure de louange, je peux ressentir la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu, elle est là, elle est immédiate. Qu'il y ait de la louange ou qu'il n'y ait pas de louange. Après que certains chants peuvent nous aider, nous porter et élever notre âme, nos émotions par exemple, ça aide. Mais ce n'est pas que ça. Dieu ne parle pas qu'à nos émotions, et Dieu n'est pas que perceptible au travers de nos émotions, il parle aussi à notre esprit. Former des disciples, et c'est là que, dans l'accompagnement de discipulat, de formation, que les gens vont pouvoir vivre aussi des libérations et être accompagnés et progresser. Il est normal que pour certains, dans les semaines qui suivent, ce soit des moments difficiles et même parfois perturbants, voire même très perturbants. Voilà. Et se débarrasser, encourager les personnes aussi à se débarrasser du matériel. Les statues ne sont rien, c'est du bois. Un pendule, c'est rien, c'est du métal, hein, c'est un bout de métal, un pendule. Si vous en avez déjà eu entre les mains, c'est rien du tout. Une amulette, des gris-gris, des bouquins, c'est du papier, voilà. Rien du tout, c'est de l'encre. Ce que nous discernons, c'est qu'il peut y avoir des forces spirituelles qui peuvent s'y attacher. L'apôtre Paul va dans ce sens, dans l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit, ben voilà, hein, derrière les statues, derrière les dieux que vous adorez, en réalité, il n'y a qu'un seul dieu d'abord, rappelle-t-il, le reste ne sont pas des dieux, mais derrière ces dieux ou ces statues se cachent en réalité quoi ? Des démons. Donc des démons. Et parce que des démons ont été invoqués ou des démons se cachent derrière certains objets, par conséquent, quand je ramène cet objet chez moi à la maison, eh bien, l'esprit qui est attaché à cet objet a un droit. Et ce qui fait que certaines personnes se retrouvent perturbées, vivent des perturbations qui vont être fortes. Et ça peut être lié à la présence de l'objet. Encore une fois, ce n'est pas toujours très logique, toutes ces choses-là. Moi, je me rappelle, j'étais un jour en Centrafrique il y a quelques années, et puis j'aime bien un petit peu l'art en général, et puis aussi l'art africain, je trouve ça sympa. Et je suis allé avec le pasteur qui m'avait invité, on est allé visiter une échoppe d'un de ses amis qui a des objets d'art qui sont vraiment intéressants. Il me dit, ah, là, tu peux y aller dans la partie pour tout le monde, là, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, je vais là-bas, regarde un petit peu tout ce qu'il y a comme objet. Et à un moment donné, il me dit, il y a une autre pièce. Et dans cette autre pièce, il y a des objets d'art qui proviennent des tribus, etc. Et tout de suite, je me suis dit, oh, ça doit être chaud. Mais comme j'aime bien l'art, je vais quand même regarder. Et effectivement, vous aviez des belles sagaies, vous aviez des chefs, des sièges de chefs de tribus qui étaient magnifiques. Mais tout ça, ça valait une fortune. Et alors que j'étais en train de visiter ce truc-là, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais tout d'un coup, le pasteur qui m'avait invité, il m'a dit, tu sais, la dernière fois, je suis venu avec un de mes amis ici, là, et il n'est pas chrétien, et il est venu avec son fils aussi. Et lui, il est allé visiter. Et son fils, il a commencé à rentrer dans la pièce, un petit qui doit avoir 6-7 ans. Il m'a dit, immédiatement, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il a été pris spirituellement. Le gamin, là, il a été profondément perturbé. Il n'a pas pu rentrer dans la pièce, quoi. Il a été obligé de rester à l'extérieur. Et effectivement, ben voilà, vous avez toutes sortes d'objets qui ont servi à des liens, à des sacrifices. Vous avez des divinités, des noms de démons et autres qui ont été invoqués. Et donc, c'est du bois en tant que tel. Mais puisqu'il y a quelque chose qui a été fait dessus, c'est rattaché à une puissance. Donc, par conséquent, mieux vaut encourager les gens à se débarrasser. Et parfois, vous avez même des choses surprenantes. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai mon copain Richard Maurice, qui pourtant est un évangélique bien traditionnel, qui me raconte qu'il a accompagné des personnes à la foi et à la libération, des gens qui avaient chez eux des grimoires, donc ces livres avec toutes sortes de formules dedans. Et ils ont décidé à un moment donné de les brûler, de s'en débarrasser. Ils ont mis ça dans une caisse en ferraille, et ils ont essayé de l'allumer. Il m'a dit, tu me crois ou pas ? On l'a essayé de l'allumer, ça ne marchait pas. On a versé de l'essence dessus. On a balancé une allumette, ça n'a pas pris feu. On a dû invoquer le nom de Jésus pour que ça brûle. C'est fou, quoi. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, mais dans certains cas, il m'a dit, ça m'est arrivé. On a dû invoquer le nom du Seigneur Jésus pour que le truc y flambe et ça disparaît. Pourtant, c'était du papier, quoi, hein, et de l'essence qui a été mise dessus. Donc, c'est immédiatement inflammable, quoi, normalement. Donc, la Bible nous encourage en ce sens. On le voit dans Actes 19, verset 19. Et puis, vous avez parfois, oui, des choses qui peuvent être liées à des objets, hein. C'était, je crois, il y a un an, mon collègue pasteur de Benfell, là, du Renouveau Charismatique, qui me fait venir parce que j'avais donné une conférence dans sa paroisse. Et il me dit, voilà, il y a dans notre église là un couple qui aimerait bien nous rencontrer tous les deux, donc deux personnes qui ont leur fille, et ils ont eu un souci avec leur fille. La maman me raconte, écoutez, on a notre fille qui, à un moment donné, elle a hérité un vieux lit alsacien, donc un lit traditionnel en sapin, et sur ce lit, il y avait peint dessus des anges. Et c'est un lit qui se transmet dans la famille. Elle m'a dit, quand elle a reçu ce lit, elle a commencé à dormir dessus, pratiquement tous les soirs, dans la période d'endormissement ou juste avant, elle se mettait debout sur le lit ou assise, et il y a une voix qui parlait au travers d'elle. Et pourtant, ce sont des paroissiens très traditionnels, pas plus que ça dans la foi apparemment, des gens aussi assez nantis, et ils étaient là, ils voyaient ça, quoi. Et ça a duré, je ne sais combien, 2 ou 3 ans, vous imaginez ? On a du mal à croire de telles choses, quoi. Et la mère se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et à un moment donné, la mère s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le lit ? Ils ont pris le lit, ils l'ont mis dans le jardin, ils l'ont brûlé, et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Et donc, elle voulait juste qu'on vienne pour qu'on puisse prier aussi avec elle, pour qu'on puisse prier pour la maison aussi, pour que tout puisse être coupé et délié, puisqu'elle avait entendu un enseignement dessus. C'est fou, quoi. Qu'est-ce qui a été fait sur ce lit-là ? Quels sont les noms qui ont été invoqués par celui qui a peint ? On n'en sait rien. Elle avait juste fait des photos, elle me les a montrées, quoi. Elle m'a dit, j'ai juste gardé ça entre guillemets, en souvenir de cet épisode, quoi, hein, qui a été un drôle de truc, quoi. Et la gamine, des voix qui parlaient à travers elle, et ce n'était pas elle qui parlait. Et après, elle s'endormait, quoi. C'est fou, quoi. En Alsace, hein, une terre protestante, quand même. Alors, problème spirituel et psychique et spirituel, on va terminer. Ça va, vous êtes encore prêts, là ? Ça fait quand même là 1h20 que je parle, quoi. On termine tout doucement. Comment discerner ? Quelques questions et remarques. Je vous l'ai dit hier soir, je le redis, c'est pas du tout évident de s'en sortir là-dedans. Les deux peuvent être liés. Une fois libérée, la personne a besoin d'entreprendre d'abord un suivi pour se reconstruire. Et quand je parle de se reconstruire, c'est vraiment se reconstruire aussi au niveau de son âme, au niveau de son psychisme. Si maintenant, après plusieurs temps de prière et de discernement, vous voyez que rien ne bouge, le problème n'est pas spirituel ou apparemment ne serait pas d'origine spirituelle ou démoniaque. Parfois, les gens me disent « mais comment on fait pour discerner ?» Moi, je ne sais pas forcément. Soit l'Esprit de Dieu vous donne une parole de connaissance et vous révèle quelque chose, mais si ce n'est pas le cas, vous allez creuser pour voir s'il y a peut-être des antécédents dans la famille. Mais si vous ne discernez rien, dans ce cas-là, vous allez prier. Et si après avoir prié pour cette personne-là, vous voyez qu'il n'y a rien, eh ben dans ce cas-là, c'est que le problème n'est pas d'origine spirituelle et démoniaque. Et donc, c'est important de pouvoir le dire aussi, parce qu'il y a des gens qui risquent d'avoir peur et qui se disent « mince alors, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose là ?» Et donc, ils restent avec une certaine crainte, une certaine peur, de se dire « mais j'ai des démons qui sont là, mais personne n'arrive à les chasser, quoi. » Vous voyez ? Il y a des cas qui peuvent être compliqués, oui, ça c'est vrai. Si je prends le cas de ce jeune homme tout à l'heure dont je vous ai parlé, dont le papa a été délivré d'esprit, ben par la suite je l'ai suivi un certain temps et j'ai prié pour lui à plusieurs reprises. Au début je pensais vraiment qu'il y avait des esprits sur lui. Et puis à un moment donné je me suis rendu compte que oui, il y avait eu certains liens mais que c'était terminé, qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient là. Et je n'étais pas sûr de mon diagnostic. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à un ami qui a un ministère prophétique, un évangéliste là, près de Niederbronn, Thierry Kopp, je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de l'avoir en entretien ? Et donc je lui ai amené, moi je ne suis pas du tout allé avec lui, je ne lui ai rien dit sur la personne, sur le cas, pour ne pas influer son jugement. Et donc il l'a eu en entretien pendant une heure et demie. Et puis il me dit, en sortant, il me dit, écoute, moi je vois pas, il n'y a pas d'esprit sur la vie de ce gars-là, par contre, il a vraiment besoin de travailler au niveau de son renouvellement de son intelligence, et moi c'est exactement ce que je lui avais dit, quoi. Et donc c'était le problème, c'était vraiment des fausses croyances, et accepter la vérité de Dieu, et arrêter de baigner dans des demi-vérités, et puis se faire suivre aussi au niveau psychologique. Donc voilà, il y avait un truc qui était posé, et on lui a dit tous les deux, quoi. Voyez, donc parfois ça peut être bien d'avoir le regard de quelqu'un extérieur aussi si vous avez un doute. Quelques petites choses encore. Vérifier l'histoire médicale de la personne et de sa famille. Donc ça c'est une des premières des choses qu'on va faire quand on a affaire à quelqu'un qui est perturbé comme ça. Vérifier aussi si la personne prend un traitement médicamenteux. Ça paraît évident, mais on n'y pense parfois pas. Moi, c'est ce que je vais demander, est-ce que vous prenez des médicaments, si oui, lesquels, etc. Vous vous renseignez, voir s'il y a des effets secondaires, parce que vous avez des effets secondaires des médicaments qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des manifestations qui pourraient être d'ordre spirituel. Des gens qui entendent des voix dans leur tête, et ça peut être lié à des prises de médicaments. Des gens qui ont des sensations de toucher, et ça peut être lié à des effets secondaires de prise de médicaments. Ou alors des interactions entre tel type de médicaments. Donc voilà, tous ces médicaments qui sont censés nous aider produisent aussi beaucoup, comme vous le savez, d'effets secondaires, y compris au niveau de la perception, y compris au niveau de notre âme, de notre ressenti, etc. Donc on va vraiment se renseigner. Regardez aussi si la personne prend des drogues, parce que là aussi, hein, non seulement ça peut peut-être ouvrir des portes, mais ça peut aussi produire des effets qui peuvent... faire penser à une présence démoniaque alors que c'est lié à la drogue qu'elle a prise. Regardez aussi du côté des émotions, notamment des blessures du passé, l'amertume, des demandes de pardon, peut-être des problèmes oui, des conflits profonds qui n'ont pas été réglés, qui peuvent être la porte ouverte aussi au niveau spirituel et qui peuvent perturber psychologiquement l'individu. On le sait, hein, ce qu'on garde à l'intérieur de nous-mêmes a une influence, et c'est normal, sur notre corps physique et va nous perturber, que ce soit notre sommeil, que ce soit nos organes, etc. Quelques petites choses aussi à ne pas faire, lui dire d'arrêter son traitement médical, donc ça on le dira jamais, y compris pour quelqu'un pour qui on prie pour la guérison et qui dit ou qui chez qui on voit vraiment une guérison, donc c'est jamais nous qui allons poser l'acte, toujours allez chez votre médecin, faites ce qu'il faut faire et voilà, c'est lui qui vous dira, qui posera le diagnostic, qui vous dira d'arrêter ou pas. Croire aussi de suite que son problème est lié à un démon et qu'il faut le chasser. Donc très important de pas tout de suite dire oui, il y a spirituel. Parfois moi j'ai des gens qui me téléphonent, ils me disent ah mais pasteur, oh, j'ai des démons, etc. Généralement ceux qui me disent ça, c'est qu'ils ont rien du tout, alors pas grand chose. Le problème se situe ailleurs. Ceux qui en ont, ils le savent généralement pas, ou alors ils vont pas mettre les mots dessus, ils vont en parler différemment. Et puis si les gens sont perturbés, surtout pas leur dire « Oh là, moi je vois, il y a plusieurs esprits sur vous, là vous allez voir, on va les chasser, etc. » Vous risquez de leur faire peur, et puis si ça va pas mieux ensuite, ils vont se dire « Bah mince, alors c'est parce qu'il y a des esprits qui sont là et on n'a pas réussi, donc par conséquent maintenant je me travaille avec des esprits et il va falloir les garder toute ma vie ou combien de temps est-ce que ça va prendre ?» Pensez aussi que la seule et unique solution est la délivrance. La délivrance est un des aspects, hein, je parle de la délivrance spirituelle, mais il y a aussi tout l'accompagnement pastoral, tout le travail de discipulat, et puis bien d'autres choses que Dieu met à notre disposition pour pouvoir nous aider. Et je termine avec un mot sur les problèmes d'oppression spirituelle chez les chrétiens. Quelques petits rappels fondamentaux. Tout être est soumis à l'autorité du Christ. Et quand je dis tout être est soumis à l'autorité du Christ, c'est tout être dans ce monde et dans le monde spirituel. Donc il n'y a personne qui soit en dehors de l'autorité du Christ ou qui ne lui doive pas allégeance. Je dis ça parce que parfois, vous en avez certains ministères aujourd'hui, notamment qui parlent, je ne sais plus de quel esprit là, les esprits soi-disant, les esprits des morts qui ne seraient pas soumis à l'autorité de Jésus, et eux, quand vous parlez, vous les chassez au nom de Jésus, ça ne marche pas, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est, c'est salade, quoi. Hein ? Je veux dire, tout être est soumis à l'autorité du Christ. Donc sur terre aussi, nous sommes tous soumis à l'autorité du Christ. Il y a ceux qui le reconnaissent, qui ont fait allégeance, et puis ceux qui ne l'ont pas reconnu, mais qui un jour fléchiront, comme nous dit l'Écriture, devant le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui le maître. Deuxièmement, le sang de Jésus nous délivre du pouvoir de Satan, il nous purifie de tout péché et il nous protège de manière efficace contre les forces du mal. Troisième point, c'est ce que nous disions hier soir lorsque nous parlions du combat spirituel et d'une définition que je vous proposais, la conversion ne met pas un terme à tous nos problèmes. Et ce qui arrive à l'un n'arrivera pas forcément à l'autre. C'est pas parce que vous, personnellement, vous avez vécu ça dans votre cheminement spirituel, ou même au niveau de la délivrance, que votre épouse, ou vos amis, ou la personne que vous accompagnez au niveau spirituel, vivra aussi la même chose. Pas du tout. Et rappelons aussi que les émotions ne sont pas des esprits, mais que le diable peut s'en servir, effectivement. Mais qu'en tant que telles, elles ne sont pas des esprits. Quelques petits rappels, et nous terminons avec les problèmes d'oppression chez les chrétiens. Nous distinguons quatre niveaux d'oppression spirituelle. Alors ce que je vous dis ici, je l'emprunte à mon collègue Richard Maurice, et puis aussi à un ami qui est pasteur pentecôtiste, qui a fait beaucoup de délivrances, qui est aussi d'accord avec cela, et puis à d'autres ministères, voilà. Donc, on distingue généralement quatre niveaux d'oppression spirituelle. Ça nous aide un petit peu de comprendre ce qui se passe parfois chez nous autres chrétiens. De premier niveau, c'est la tentation. Donc, entendre des voix dans son oreille, être séduit, etc., n'est pas synonyme d'une oppression spirituelle, mais simplement d'une attaque. Et nous avons à apprendre, comme je disais tout à l'heure, à résister. La tentation nous concerne tous. Hier soir, je vous donnais l'exemple de ce pasteur malien. Voilà, jusqu'à la fin de notre vie, nous sommes soumis à cela. Et puis, vous avez de nombreux piliers de la résistance. Mais les deux piliers sont, entre autres, la victoire du Christ, son autorité, et puis marcher dans la sainteté. Donc voilà, la tentation qui est commune à tous les êtres humains et qui est commune aussi à tous les enfants de Dieu. Ça, c'est, je dirais, un niveau d'oppression spirituelle que nous pouvons vivre, chacun d'entre nous, y compris ceux qui ne sont pas nés de nouveau, bien entendu. Deuxième niveau d'oppression qu'on distingue, c'est l'oppression spirituelle ou le blocage spirituel qui peut s'installer ou qui va s'installer dans la vie d'un croyant à cause d'un péché qui n'est pas confessé et qui va se manifester ou qui peut se manifester au travers de certains harcèlements tels que des voix accusatrices, par exemple, précises, des prises de médicaments, et donc la prise de médicaments va être sans effet pour calmer, et puis les voix se taisent une fois que la porte sera fermée. Vous avez des personnes en entretien qui sont constamment accusées par des voix, qui les accusent constamment, etc. Et c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, il y a un péché non confessé. Et donc ça donne une sorte d'emprise sur nos émotions, sur notre être intérieur. Et ça produit un blocage spirituel. Des entraves, telles que pour certains des difficultés à prier, à se concentrer dans l'entretien, une indifférence aussi aux choses spirituelles. Vous avez dans l'assemblée des gens qui ont une indifférence, mais c'est terrible, quoi, aux choses spirituelles. L'indifférence, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vraiment il est dans la foi? Je ne parle pas d'un petit coup difficile qu'on peut vivre ou d'un moment où on traverse le désert. Là, c'est vraiment une indifférence et ça peut être lié à quelque chose qui n'a pas été confessé ou un problème qui n'est pas réglé. Ensuite, une présence démoniaque. Pour un chrétien, plusieurs proposent ou suggèrent, et je pense que c'est juste, de ne pas utiliser le mot de possession. Et vous avez certains ministères qui utilisent trop facilement ce mot de possession. Il est chrétien, il a vécu une libération, on va dire, il était possédé. C'est pas juste, c'est anxiogène, je pense, c'est pas approprié. Mieux vaut parler de présence. Et ça peut se manifester de 36 000 manières, mais ça peut se manifester dans certains domaines précis de la vie où la personne est vraiment liée, où il y a par exemple des dons qui peuvent rester. C'est le cas de Walter Vapiani, je ne sais pas si vous avez lu son livre, mais il raconte que quand il s'est converti, il s'est réellement converti. Il s'est fait baptiser, c'était un enfant de Dieu, il aimait vraiment le Seigneur, mais il savait qu'en lui, il avait des dons qui étaient encore là. Beaucoup de ces dons de guérisseurs étaient partis, mais certains restaient encore. Et étant donné qu'il était dans une église où on ne parlait pas de ça et on ne priait pas pour ça, il ne savait pas quoi faire avec. Et puis un jour, il est allé assister à une conférence, et c'était Michel Renevier, un pasteur pentecôtiste suisse bien connu, qui accompagne, je crois, 500 ou 600 personnes, me disait quelqu'un récemment, par an, à ce niveau-là, qui était là-bas, et Walter le rencontre par hasard, et il lui dit, Michel, écoute, viens à la fin, on va prier pour toi. Et puis Michel, avec un pasteur, lui a imposé les mains, et puis ils se sont adressés à ses puissances, ses autorités, il leur a commandé de partir, et puis au bout d'un moment donné, ça a duré quelques instants, tout d'un coup, Michel a senti qu'il y a quelque chose qui montait de son ventre, là, il a été pris, pardon ? Walter, oui, pardon, merci, je vois que tu suis bien. Walter a senti qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui, de son ventre, et c'est sorti par la bouche en criant, ça a duré une vingtaine de secondes, et c'était terminé, et il était totalement libéré. Et pourtant, il était né de nouveau, et l'Esprit de Dieu était déjà présent en lui, hein, et il conservait encore des dons, donc c'est possible. Mais si tel devait être le cas, dans l'entretien pastoral et puis dans le suivi spirituel, ça doit partir. Il ne faut pas vivre dans la peur ou dans la crainte. S'il y a quelque chose, ça va apparaître à un moment donné, ça va être réglé. Et quand c'est réglé, eh bien, c'est réglé. Alors, ça peut se manifester par une grande difficulté à marcher avec Dieu, des comportements bizarres, une pulsion à se faire du mal, des jurons qui peuvent sortir de la bouche et puis entrent dans la tête pendant le culte, un changement de voix, etc. Ça peut parfois être spectaculaire et faire penser à une sorte de possession, mais c'est une présence qui est liée à un certain domaine bien précis. Ce n'est pas du tout la norme, mais ce sont des choses qui peuvent se manifester, particulièrement pour ceux qui ont un bagage assez fort. Et la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle alors la possession ou le contrôle total, comme proposent certains, Et là, c'est des personnes concernées, ce sera uniquement des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Le Saint-Esprit n'étant pas en lui, le diable ou les esprits peuvent s'en servir comme ils le souhaitent. Et par conséquent, la personne ne se maîtrise absolument plus. Comme ce jeune homme que je vous ai parlé hier soir, ce culturiste, qui pourtant était dans une église évangélique, qui pensait être né de nouveau, eh bien, quand les démons se sont manifestés, il ne maîtrisait absolument rien. Plus rien du tout, c'était terminé. Il était victime de la chose, donc lui, il n'était pas né de nouveau. Et d'ailleurs, il le dira, il pensait qu'il était né de nouveau, mais en réalité, il n'était pas né de nouveau, puisque maintenant, il aime la louange, il aime lire la Bible, il aime parler de Jésus, alors qu'avant, il n'aimait pas lire la Bible, il n'aimait pas la louange, il n'aimait pas aller à l'église. Vraiment, voilà, ce n'était pas du tout ça, quoi. Ça fait beaucoup d'infos. J'aurais pu faire une petite pause. Voilà, je vous ai donné plusieurs informations là concernant un petit peu cette thématique du combat spirituel et plus particulièrement ce matin, un petit peu sur l'accompagnement spirituel des personnes. On souffle un petit peu là. On prend un petit temps de questions peut-être et on termine avec ça. Moi je suis pas. Pardon ? Ah, c'est difficile. Moi j'ai du mal un petit peu à en parler. Ce que je dis habituellement, quand j'aborde la question des médecines alternatives, on en parlera lundi chez Rebecca. Ce que je dis habituellement, c'est qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de tout diaboliser, et puis le second, c'est de se jeter dessus, vraiment. Faut vraiment un discernement, quoi. Et puis après, il faut faire aussi attention parce que parfois dans les milieux chrétiens, vous avez plusieurs écoles qui existent, notamment concernant l'homéopathie. Vous avez des chrétiens, moi je connais des chrétiens très sérieux qui prennent l'homéopathie, voilà, et qui sont des gens, ils n'ont pas de problème, ils sont sérieux dans leur foi. Et puis j'en connais d'autres qui ont eu des expériences qui me semblent davantage être liées non pas à l'homéopathie en tant que telle, mais plutôt être liées à l'homéopathe en tant que telle. Voilà. Et qui ont été embêtés. Parce que finalement, l'homéopathie, c'est quoi ? L'homéopathie, vous pouvez prendre toutes les petites pilules là, qu'on vous propose, que ce soit du 5 ou du 30 CH, ou du 20 CH, ou du 15 CH, vous pouvez toutes les manger, quoi, en réalité. Vous risquez rien. Ben oui, puisque c'est du sucre. Des petites boules, en réalité, il n'y a rien dedans. D'un point de vue chimique, moléculaire, vous n'avez plus rien, puisqu'à la base, c'est une solution qui peut être, qui peut vous tuer, mais qui va être, on va prendre une goutte, on va la diluer dans 99 autres gouttes, et vous obtenez une solution à 1 CH. Après, vous prenez une goutte de ce produit, vous la mettez dans un autre récipient, vous remettez 99 autres gouttes, et vous obtenez une solution à 2 CH. Et donc, très rapidement, vous arrivez avec plus rien du tout qui est là. Alors les homéopathes vont vous dire que là où ça devient actif, c'est à partir de 20 CH, de 15 CH, de 30 CH. Donc plus c'est dilué, plus c'est actif. Et ils vous disent que pour que ce soit de nouveau actif, il faut que le produit soit dynamisé. Parce que quand vous le dynamisez, la solution, vous allez transmettre votre énergie vitale dedans, et c'est cette énergie qui va faire que le produit sera de nouveau actif. En réalité, tout ça, c'est fait par des machines, quoi. Bon, alors après, effectivement, il est probable que certains laboratoires, je ne sais pas lesquels, je n'ai pas creusé le sujet, peut-être utilisent le pendule pour choisir les produits à la base et savoir vers quel produit il faut se diriger plutôt qu'un autre. Mais après, est-ce que...
Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a des faits avérés, parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup par rapport à l'homéopathie, justement, de laboratoires. Il y a des gens qui prieraient pour... qui mettraient certains esprits dans les pilules, dans le médicament. Est-ce que c'est quelque chose qui, lors de la légende urbaine, ou de l'ordre où il y a des faits qui sont avérés?
Alors, moi, je ne sais pas. Et moi, tant que je n'ai pas de faits, personnellement, j'en connais pas et je reste méfiant. J'ai déjà entendu un médecin, une fois qu'il donnait une conférence, et lui, il était contre. Ses arguments ne m'ont pas 100% convaincu. Personnellement, je préfère m'abstenir. Sans pour autant diaboliser la chose. Et je me demande peut-être, alors c'est probable que je me trompe, et peut-être que dans quelques temps, eh bien, je ferai marche arrière par rapport à ça, mais je me demande dans quelle mesure, en tout cas, ce n'est pas le même principe que les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que même s'il y a des divinités qui devaient être invoquées là-dessus, ou le pendule qui devait servir au départ pour aider à choisir, donc le pendule n'étant rien, c'est la personne elle-même, le médium qui se trouve derrière, qui est quelque chose, c'est lui qui a un problème, ce n'est pas l'objet qui a un souci. Hein. Et même si ça devait être le cas, est-ce que ce n'est pas le même principe que les viandes sacrifiées ? Parce que les viandes sacrifiées aux idoles, c'était des viandes, c'était donc des bêtes qui étaient offertes à des idoles. Donc par conséquent, à des démons qui étaient sacrifiés pour des démons. Et donc il y avait des gens qui étaient en transe, qui étaient là, et on dédiait cette viande-là comme la viande était dédiée dans l'Ancien Testament. On va l'offrir à Dieu. Et ensuite, elle était donnée aux prêtres, et certaines viandes, on pouvait les partager, notamment sacrifice de communion, je crois, avec le peuple. Et donc là, c'était exactement la même chose. Et donc cette viande se retrouvait au marché, parce que vous avez eu plein de barbares qui ne savaient pas quoi faire avec, donc on allait vendre ça au marché. Et il y a des chrétiens qui étaient dérangés par ça. Et Paul leur dit, si ça vous dérange, n'en mangez pas. Hein? Et je pense que c'est ça. Par contre, lui, il dit, ça ne le dérange pas. Et certains chrétiens, ça ne les dérange pas. Certains chrétiens, ça ne les dérangeait pas, ils en mangeaient. Pourquoi ? Parce que tout appartient au Seigneur. Et ce n'est pas parce que le nom d'un esprit a été invoqué que ça va me faire quelque chose quand je vais en manger. Depuis quand est-ce qu'on chope un démon quand on mange de la viande ? Tu vois ?
Il y a quand même une différence. Si ce n'est pas de la légende urbaine, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à un vecteur, comme un véhicule,
oui.
Et moi ça me trouble qu'un élément qui n'a aucun principe actif, comme d'ailleurs une statuette, comme un morceau de bois, comme un aigris, comme un livre, puisse avoir des influences finalement démoniaques ou nocives pour celui qui a incarné sous l'influence, et même la personne donc qui accepterait de prendre l'homéopathie, sous quelle influence finalement se met-elle ?
Voilà, alors peut-être que c'est effectivement de cet ordre-là. Hein, c'est une question effectivement qu'on... C'est pour ça. Moi, personnellement, voilà, je préfère m'abstenir. Je ne suis pas convaincu de la chose. Alors, par rapport à tout ce qui est magnétiseur, guérisseur, etc., médium, là, il n'y a pas de souci. L'écriture est claire et les expériences démontrent aussi qu'il y a autre chose derrière. Par rapport à certaines choses, je serais un petit peu plus nuancé personnellement. Donc, je respecte les différents. Hein. J'ai des amis chrétiens qui sont vraiment très, très contre. Et donc, je les respecte entièrement dans leur choix et dans les décisions qu'ils ont prises, parce qu'ils prennent ces décisions en conscience et devant Dieu. Et ils posent un acte de foi. Et puis d'autres qui vont dans d'autres sens aussi, quoi. C'est pas toujours évident avec ces questions. Par contre, là où moi je dis aux gens, faut faire attention par rapport à toutes ces médecines, c'est quand il est question d'énergie, de puissance, d'influence spirituelle, etc. Même si c'est léger en réalité ou présenté de manière très légère, attention, ça peut être à un moment donné la porte ouverte à quelque chose ou à une sorte de lien qui va se poser sur la personne. Et c'est là que ça devient dangereux, quoi. En tout cas, pour l'homéopathie, j'ai souvent remarqué que c'était quand même beaucoup lié pour certains aux homéopathes. Vous avez des homéopathes qui ne sont pas clairs du tout, quoi, hein, qui sont chelous. Hein.
Moi, j'ai une question par rapport à tout ce que tu as présenté sur le ministère de la libération. Il me semble que c'était quand même grandement lié au fait que la personne était active dans ce processus, était d'accord, faisait partie du processus.
Oui.
Clairement, il semble y avoir clairement un discernement d'un problème spirituel, mais où la personne n'est pas d'accord pour une libération, n'est pas, fait pas partie de ce processus. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'il en est ? Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, je pense. Donc quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas actif, qui n'est pas d'accord aussi avec...
Ouais. Parce qu'elles sont complètement mangées.
Alors je pense que si on a, si on a, ouais. Oui, c'est clair. Alors c'est clair que si on a affaire à quelqu'un comme ça et que l'esprit se manifeste, dans ce cas-là, on va. Moi, je pense que surtout si, peut-être pas seul, mais si on est deux ou trois, on va la libérer, quoi. On va faire quelque chose, on va prier pour elle, pour venir à son aide. On va pas la laisser victime de ce qu'on est en train de voir. Donc moi, ça c'est la première chose que je dirais. Deuxième chose, si maintenant j'ai affaire à quelqu'un où ça ne va pas se manifester, mais qui n'est pas d'accord, etc., je ne vais pas prier pour elle. Ou alors je vais prier dans un tout autre sens. Il y a quelque temps, là, j'ai une dame qui m'a demandé de venir la voir dans la région, qui m'a contacté, je ne sais pas comment, elle avait mes coordonnées, et puis je viens, et puis elle pensait qu'elle avait des problèmes occultes. Et puis finalement, cette femme, elle n'avait pas de problème occulte, quoi. C'est une femme qui vivait une situation de conflit terrible avec son mari, c'est une femme qui souffrait pour X raisons, qui avait juste besoin d'être écoutée et de savoir qu'il y avait un Dieu qui était là, qui l'aimait, qui voulait prendre soin d'elle. Mais en discutant avec elle, tout d'un coup, il y a sa fille qui vient se joindre, qui devait avoir 24 ou 25 ans, et elle était très intéressée par ce que je disais un petit peu au départ sur le monde occulte. Elle me dit « Ah, mais moi, je suis en train d'être formée actuellement par un magnétiseur, quoi. » Et elle développe des dons, et elle avait vraiment des choses sur sa vie. Et alors, quand je lui ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, elle est tombée sur le cul, quoi. Parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle entendait ça, quoi. Et elle avait du mal à croire. Elle était en même temps attirée, puis en même temps, elle était repoussée. Et c'était fort, et à la fin, j'ai proposé à sa maman juste de prier pour elle, et elle a dit « Ah, mais moi, je pars ». Et donc, elle part pendant le temps de prière, et puis tout d'un coup, je ne commence pas encore tout de suite à prier pour sa mère, et puis tout d'un coup, elle était devant le pas de la porte. Ah, je dis « Mais vous pouvez venir, vous avez envie de venir ?» Et puis, elle avait envie de venir, tu vois. Elle avait envie de voir comment j'allais prier, et je lui dis « Mais je peux aussi prier pour vous, mais vous savez ce que vous devez faire de votre côté ?» Et elle m'a dit « Ouais, mais elle n'était pas encore prête ». Tu vois, elle n'était pas prête à aller plus loin. Donc, j'ai simplement prié pour elle, je l'ai remis à Dieu pour que le Saint-Esprit l'éclaire, et puis je lui ai filé une Bible. Donc, c'était un cas différent. Et puis, parfois, ça m'est arrivé d'avoir des cas plus difficiles, où les gens étaient encore plus chargés spirituellement. Mais ils n'étaient pas prêts, ils ne voulaient pas qu'on prie pour eux. Donc, tu vois...
C'est ça un peu selon ma question, si les gens ne sont pas prêts...
Ah non, moi, je ne prie pas, il faut les respecter. Il faut vraiment les respecter parce que si tu fais pas, tu vas prendre autorité au nom de Jésus sur eux, sur leur vie, sur leur âme et sur leur esprit, et tu vas poser un acte avec lequel ils sont pas pleinement d'accord. Et donc quand tu vas prier, tu risques de remuer tous les esprits qui sont là. Tu vas même leur commander de partir et ils vont partir. Et la personne risque d'être troublée par ce qu'elle vit.
Et,
ouais.
Je vous conseille de ne pas prier pour.
Ah ouais. Moi je vais pas prier pour. Surtout si on a pu en parler auparavant. Mm-hmm. Surtout si on a pu en parler auparavant. Ouais. On prendra du temps, quoi. On fait pas n'importe quoi. Même Paul dans Acte 16, quand il va libérer cette femme qui avait un esprit de divination, hein, elle a quand même traîné pendant plusieurs jours avec eux. Hein. Pourquoi tous ces jours précédents il a rien dit, quoi. J'en sais rien. Mais voilà. À la fin il était énervé. Mais tu as vu les conséquences que ça a eu, quoi. Hein, ça a été le bazar. Hein, ouais, pour moi, c'est très important que la personne, si elle le peut, soit pleinement participative. On n'est pas dans l'acte magique. Hein, et je n'ai pas envie qu'après, elle me reproche, elle me dise « Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait, là, maintenant, j'ai plus ci, j'ai plus ça. » Moi, j'ai un copain qui s'est amusé à ça, ça a été limite. Un ami à Strasbourg qui témoigne beaucoup de sa foi, il est bien bien zélé, le gars là, il avait un de ses amis qui avait des dons de guérison, mais quelque chose d'assez fort, un jeune, hein, 24-25 ans. Et donc lui, il lui a souvent témoigné de sa foi, etc., de Jésus. Et un jour, son ami qui est chrétien, ça le dérangeait de voir qu'il avait tous ses dons. Et puis surtout l'autre, il ne croyait pas vraiment dans le Seigneur et dans sa puissance. Eh bien, celui qui est chrétien, chez lui à la maison, il a prié pour qu'il perde ses dons. Et effectivement, Dieu l'a exaucé. Il a perdu ses dons. Et le gars, un jour, il est venu vers son ami chrétien et lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il savait tout de suite que c'était lui qui avait fait quelque chose, qui avait prié. Et il était moyennement content, tu vois. Ah, c'est une drôle d'histoire, hein. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Donc, il faut faire attention, hein. Il ne faut pas s'amuser, quoi. Allez, une dernière question. Le temps arrive. Oui. Ah, alors c'est une grande question. À vrai dire, moi, je ne me suis pas tellement intéressé à tout ce genre de questions. Moi, je suis plutôt un petit peu la position de Maurice Ray, assez traditionnelle, qui dit « Où doit-on chasser les démons ?» Tu les mets sous les pieds de Jésus-Christ, hein, tu les chasses et après, ça ne m'appartient plus. Hein, ça appartient, pour moi, ça appartient à Dieu, quoi. Ouais. Mais on peut se poser la question, effectivement. Hein. Ouais, que ce soit d'un point de vue pastoral ou alors d'un point de vue théologique. Mais je t'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à ça, quoi. Et du coup, je vais m'intéresser. Merci. Où vont les démons, t'sais ? Ça sera le thème du prochain bouquin, quoi. Où sont-ils partis ? Où se logent-ils ? On arrête ici ? On veut encore se lever, si vous voulez bien, nous voulons prier. Merci en tout cas, on a été plus long que prévu, un petit peu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore ce matin parce que c'est toi qui nous envoies pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu et aussi pour libérer ceux qui sont captifs. J'aimerais te prier pour mes frères et sœurs ce matin et te prier aussi pour que ce qu'ils ont pu recevoir, que ce soit maintenant ou alors hier soir, et ce qu'on recevra encore ce soir ou demain, puisse vraiment les aider aussi dans leur témoignage personnel et dans les personnes qu'ils vont être amenés à accompagner. J'aimerais te prier, Seigneur, pour que cette église puisse devenir aussi un hôpital, encore davantage, un lieu où les gens vont pouvoir être restaurés, un lieu où les gens vont pouvoir être accompagnés spirituellement, et où ceux qui, voilà, ont des liens plus ou moins forts, voire même puissants dans leur vie, vont pouvoir être libérés, vont pouvoir expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ et découvrir que Jésus est vivant et réel et agit aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu équipes aussi les uns les autres avec tous les dons nécessaires, en particulier que ce soit les dons spirituels comme le discernement, comme toutes les paroles aussi que toi tu accordes pour pouvoir donner le mot à propos au moment donné. Nous te remettons le restant de cette journée, nous te remettons nos familles, nous invoquons encore ton nom sur nos vies et sur nos familles et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous accompagnes et que tu nous réjouisses et que tu nous soulages aussi si nous en avons besoin au travers de ton nom et de ta puissance. Merci Seigneur. Amen.